Lettre de Frère Joseph Branham du 26 avril 2026. Les aigles se rassemblent. Chère épouse chérie, il se fait tard, le temps est proche, la décision doit être prise, Dieu avertit ses enfants. Le Seigneur notre Dieu nous a déclaré et confirmé ce qu'est sa vérité par sa parole et par son esprit. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit et ta parole et la vérité. Il a pleinement confirmé à l'épouse aujourd'hui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a montré et révélé que le message et le messager de l'heure sont la même chose. Il nous a révélé tous ces mystères qui étaient cachés dans la parole. Il nous l'a prouvé par son Saint-Esprit. Il n'y a pas une seule question dans nos esprits, dans nos cœurs, ni dans nos âmes. Sa voix sur les bandes est l'ainsi dit le Seigneur pour son épouse. Dieu a toujours permis bien des voies pour venir à lui. Il transforme sa volonté permissive en sa volonté parfaite. Il a aussi toujours pourvu d'une volonté parfaite et d'une voie parfaite pour ses enfants. Beaucoup tentent de venir par une voie différente en rendant un service à Dieu sans que cela soit sa volonté parfaite. Cela pourrait bien sembler être sa volonté parfaite, mais cela n'est pas conforme à sa parole. Même un grand homme, fraîchement oint, qui venait de la présence même de Dieu, a reçu une révélation de faire quelque chose pour Dieu, et il voulait le faire pour Dieu, mais la révélation qu'il avait était fausse. Chacun de nous doit trouver la voie parfaite qu'il a pourvue. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes dans sa volonté parfaite si quelqu'un qui est véritablement oint, arrivant fraîchement de la présence même de Dieu avec une révélation, est dans la volonté parfaite de Dieu? Il n'y a qu'une seule manière d'être absolument certain, et Dieu a pourvu de cette voie pour son épouse. La voix de Dieu lui-même a dit à cette église, et à vous tous qui écoutez les bandes, et à ceux qui sont en ligne à différents endroits du monde, à l'époque et maintenant. Il nous a dit d'écouter ce qu'il disait très attentivement, et que nous ne devions pas le manquer. Frère Branham dit, je cite, « De même je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. » Fin de citation. Il n'a pas dit, et ça ne signifie pas, que les prédicateurs ne peuvent pas prêcher la parole, que les enseignants ne peuvent pas enseigner la parole, ou que les pasteurs ou les prophètes ne peuvent pas faire ce que nous avons été appelés à faire. Ils doivent le faire, je dois le faire. Nous avons été appelés et établis pour le faire. Nous devons diriger les gens vers ce message et ce messager et le leur citer, car il s'agit de la parole pour notre jour. Mais il nous a dit clairement que nous pouvons tous être loin d'une véritable onction, remplis de son Saint-Esprit, avec une révélation toute fraîche et être en dehors de sa volonté. Dans notre jour, il a pourvu d'une voix parfaite, afin d'être absolument certain que vous entendez la voix de Dieu, de la part de Dieu lui-même. C'est la seule voix parfaite. Les ministères ne doivent pas seulement citer et prêcher ce message. Nous devons passer la voix de Dieu sur bande aux gens. Il n'y a pas de plus grande onction que d'écouter la voix de Dieu. Il n'y a aucune autre manière de savoir, sans l'ombre d'un doute, que ce que nous écoutons est exactement ce que Dieu a dit. En ce jour-ci, comme dans aucun autre jour dans l'histoire du monde, Dieu a pourvu d'un moyen qui rend la chose impossible à manquer si vous êtes son épouse prédestinée. Cela a été confirmé et révélé par la colonne de feu elle-même comme étant la voix de Dieu lui-même qui parle directement à son Église. Tout au long des millénaires, les enfants de Dieu ont langui et eu faim d'entendre la voix de Dieu de leurs propres oreilles. Comme ils auraient aimé pouvoir être là le jour où Jésus a prêché aux milliers sur la montagne, entendre comment il a prononcé sa parole avec amour et compassion, entendre comment il a mis l'accent sur chaque parole, comment cela encourager et parler à leur cœur. Nous sommes vivants maintenant et nous sommes dans la présence de Dieu, écoutant la voix de Dieu. Un jour très bientôt, nous ne reviendrons plus à ce genre de vie. Nous reviendrons en tant qu'êtres immortels. Le péché aura été supprimé. Satan sera lié pendant 1000 ans et nous vivrons sur cette terre que l'Éternel notre Dieu nous a donnée. Nous sommes 100% comblés. Nous n'avons jamais été plus heureux et nous n'avons jamais été aussi certains de notre vie. Nous sommes un avec lui et avec sa parole. Nous sommes sa parole. Nous sommes dans sa volonté parfaite en nous en tenant à sa voix, à sa parole. Il reviendra d'un jour à l'autre pour nous enlever avec lui. Merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit, je cite, « Le Seigneur votre Dieu vous a déclaré ce qu'est la vérité. Le Seigneur votre Dieu a confirmé ce qu'est la vérité par sa parole et par son esprit. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et l'esprit, Dieu recherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Et il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il vous a montré les semences du soir. Il vous a révélé cela dans la parole. Il vous l'a prouvé par son esprit. » Fin de citation. De tout mon cœur, j'invite chacun de vous à vous joindre à une partie de son épouse, alors que nous nous unissons de partout dans le monde à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter sa voix parler par son septième ange messager et nous apporter le message. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu, du 18 juillet 1965, le matin. Frère Joseph Branham. Restons un moment debout pendant que nous prions, inclinant nos têtes.
Seigneur, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans la maison de Dieu pour un nouveau service. Et nous te prions, ô Dieu, de nous corriger ce matin de toutes nos erreurs. Montre-nous les sentiers sur lesquels tu nous as destinés à marcher. Et donne-nous ta grâce et ton amour afin que nous puissions suivre ces sentiers et ces instructions de tout notre cœur. Et que nous puissions être trouvés ce jour-là irréprochables en Christ. Car nous croyons, Seigneur, que son apparition est proche. Nous voyons que tous les signes qu'il a annoncés comme devant arriver, juste avant sa venue, s'accomplissent maintenant. Et avec joie, nous attendons ce moment-là. De même qu'Abraham, autrefois, attendait le Fils promis, lorsqu'il vit ces derniers signes de Dieu descendre sur la terre. Alors il sut que ce ne serait pas long jusqu'à ce que le Fils arrive. Et maintenant, nous voyons cela se répéter. Jésus nous a dit que lorsque ces choses commenceraient à arriver, nous devrions lever la tête parce que notre rédemption serait proche. La perplexité du temps, la désolation entre les nations, les tremblements de terre à différents endroits, le rugissement de la mer, la peur faisant défaillir le cœur des hommes. Nous réalisons que nous sommes en cette heure où les nations ne savent que faire. Il semble qu'une autre guerre soit sur le point d'éclater. Quelle chose terrible ce serait! Terre se sépare. Les hommes de science disent que quelque chose de terrible est près d'arriver. Nous voyons que la Bible en parle. Ainsi, Seigneur, aide-nous aujourd'hui à rester dans cette maison de correction et à y recevoir les ordres de notre Dieu pour aller de l'avant en cette heure de ténèbres et pour faire briller la lumière, car il se peut que ce soit la dernière occasion que nous ayons de le faire. Car nous te le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Asseyez-vous.
Be seated.
Je considère que c'est un grand privilège d'être ici au tabernacle ce matin. Je regrette que nous n'ayons pas suffisamment de places assises pour vous. Ce lieu est bondé et les gens se tiennent debout partout et aussi dehors. Vous qui êtes dehors maintenant, vous pouvez entendre ceci sur votre radio. J'ai oublié 55 à 57. Vous qui êtes dehors, dans les parcs de stationnement et dans les rues, vous pouvez entendre ceci sur votre radio, entre la position 55 et 57 du cadran. Ainsi, nous avons essayé. Je voulais revenir ici pour essayer d'avoir une dizaine de jours de réunion pour parler sur les sept dernières coupes. Car entre ces coupes, il y a les trompettes. Et je vous avais dit dans la que lorsque je prêcherai sur les sept trompettes, je les présenterai avec les coupes et les plaies. Et j'ai pensé que le moment serait propice. Je viens de rentrer d'Afrique. Et les enfants n'ont pas eu leurs vacances. Mon petit garçon, Joseph, s'était en quelque sorte trouvé, avait besoin d'étudier sa lecture quelques semaines. Il a passé, mais il n'est pas arrivé à la moyenne. Nous l'avons donc gardé à Tucson pendant que j'étais en Afrique. Et il a continué sa lecture à l'école de jour pour rattraper. Et ensuite, nous sommes rentrés. Et je pensais que pendant les vacances des enfants, j'aurais une petite réunion ici afin de prêcher sur ces sujets. Mais à mon arrivée, nous avons découvert que nous ne pouvions pas obtenir l'auditorium de l'école. Je savais que le tabernacle n'était pas suffisant pour asseoir tout le monde et permettre à chacun d'être à l'aise pendant la durée de ce message. C'est pourquoi nous avons dû nous arranger différemment. Et au lieu d'avoir les 10 soirées comme nous l'avions prévu, j'aurai simplement 2 services par dimanche. Ce dimanche, le dimanche suivant et le dimanche d'après. deux services, de sorte que, et nous ne l'avons pas annoncé. Alors, si quelqu'un avait appris que les réunions allaient commencer le 28 à l'auditorium de l'école, si Dieu le permettait, eh bien, si vous avez des amis qui aient fait des réservations dans les motels, à votre place, je les annulerai, voyez-vous. Parce que cela, nous ne pouvons pas l'avoir. On ne peut pas obtenir l'auditorium de l'école. Et maintenant, je désire parler de... Ce sera simplement des services à caractère évangélique, le dimanche matin. Et le dimanche soir, je veux prier pour les malades. Nous avons confiance que Dieu traitera avec chacun de vous qui êtes malade. Je ne sais pas comment Billy va s'occuper de vous. Je suppose qu'il distribuera des cartes de prière afin de maintenir l'ordre dans l'assemblée. Mais nous ferons tout notre possible pour prier pour chacun de vous ces trois prochaines semaines, pendant lesquelles nous avons l'intention d'avoir des réunions si c'est la volonté du Seigneur. Et alors, souvent, il y a des entretiens particuliers. Quelqu'un désire vous voir une minute pour un problème personnel ou quelque chose du genre. Et nous allons... Combien ici désire un entretien particulier? Levez la main. Oh! Qui n'en veut point? Ainsi, nous... Ce sera assez difficile de les avoir. C'est pourquoi, écrivez votre requête et envoyez-la ou donnez-la à Billy et ensuite, je m'en chargerai depuis là. Comme je pense qu'on utilisera les cartes de prière, il vous annoncera le moment de leur distribution. Combien y a-t-il de frères ici dans le ministère ce matin? Nous n'avons pas eu l'occasion de... Je ne pense pas... Avez-vous reconnu certains d'entre eux? Combien de prédicateurs sont ici ce matin? Voudriez-vous lever la main ou vous lever? Voyons combien il y a de prédicateurs dans l'assemblée. Très bien. Merci Seigneur pour ces hommes. Je souhaiterais avoir le temps de saluer chacun d'entre eux, mais je suis sûr que vous les voyez, et nous, Dieu les connaît dans leur service, et nous prions Dieu de les bénir richement. Sans doute, beaucoup d'entre eux ont supprimé leur réunion pour être ici. Frère Junior Jackson, et je pense frère Don Raddle, mais cette émission est diffusée dans leurs églises. Et aussi à New York et ailleurs, à travers le pays, ce message est retransmis par téléphone dans chaque église ce matin. Je suis content de voir que frère Richard Blair est ici. Je viens de lire une lettre qui parlait d'une grande chose que Dieu avait faite parmi les gens là-bas. L'autre jour, d'après ce que je comprends, il se peut que je me trompe, frère Blair. Si c'est le cas, reprenez-moi. Il travaillait et aidait un homme à poser des fils électriques dans une roulotte ou quelque chose comme cela, je crois. J'ai lu la lettre. Ils ont interverti quelque chose, et cela a fait passer le courant dans de l'eau où se trouvait un petit garçon. C'était le petit garçon de l'homme à qui appartenait la roulotte. Il était encore petit, et cela a tué le petit garçon. Son estomac gonfla, et nous savons qu'après un choc électrique, c'est ce qui arrive lorsqu'on meurt. Les petits yeux s'immobilisèrent, ses dents se serrèrent. Cela bouleversa beaucoup ses frères. Père Blair a dit qu'il songea à m'atteindre quelque part pour que je prie pour lui. Mais il se souvint qu'il est écrit, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et le père se blessa les doigts en essayant d'ouvrir la bouche du petit garçon. Alors ils s'agenouillèrent et commencèrent à prier pour le petit garçon et il revint à la vie. Est-ce vrai, frère Blair? Un de nos fidèles frères ici. Oh, le petit garçon est ici. Eh bien, merci Seigneur, c'est bien. Nous aimerions que tu te lèves, fiston. Maintenant, nous remercions le Seigneur bien-aimé de ceci. Est-ce là le père du petit garçon? Êtes-vous le père? Ah, c'est juste. Et ici se trouve frère Richard Blair. Notre Dieu est capable de tout accomplir. Oui, monsieur. Il l'a promis. Nous vivons dans la présence divine du grand et glorieux Père céleste. Et toutes choses que nous sont possibles si nous pouvons simplement le croire. Voyez-vous le résultat? Ce qu'a rapporté à cet homme de croire cela? Son petit garçon a été sauvé. Dieu avait là ses fidèles serviteurs. Frère Blair et les autres, pour prier en faveur de ce petit garçon qui était dans cet état. Oui, lorsque quelque chose arrive, souvenez-vous que vous êtes les enfants du Dieu vivant. Là où deux ou plus sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il est aussi écrit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'était une détresse que ce petit garçon soit étendu là, mort sur le sol, à cause d'un choc électrique qu'il avait traversé. Nous remercions donc Dieu ce matin de tout notre cœur de ce qu'il a fait pour nous. Puisse Dieu bénir aussi ces hommes fidèles. Lors d'une urgence, c'est le moment de regarder à Dieu. Regardez à lui et soyez liés d'amitié avec lui avant que l'urgence arrive. Nous savons ceci, si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, nous pouvons lui demander n'importe quoi, comme vous le feriez avec n'importe quel ami. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai rencontré hier dans la rue la sœur de frère John Martin. Quelqu'un m'avait arrêté dans la rue et une personne a passé près de moi faisant signe de la main. En revenant à la maison, vous savez, vous voyez partout les gens qui s'arrêtent pour vous serrer la main et ainsi de suite. Et cette dame, je me souviens que quelqu'un m'avait appelé récemment pour me dire qu'on avait heurté l'arrière de sa voiture et qu'à l'occasion de cet accident, elle avait été blessée à la colonne sur toute sa longueur. Elle devait rester paralysée jusqu'à la fin de sa vie. Elle est assise dans la salle ce matin, jouissant de la présence de Dieu. Je viens de parler avec elle dans la pièce voisine. Je désirais prier de nouveau avec elle. Mais elle est ici quelque part. Je pense qu'elle n'a pas pu entrer. Oh, ici, bien sûr, elle est assise ici près de nous. C'est vrai. Voudriez-vous vous lever juste une minute, sœur, afin que les gens puissent... Voici la dame dont le docteur a dit, il y a quelques jours, qu'elle ne marcherait plus jamais, sa colonne ayant été abîmée dans cet accident. Et elle est là, guérie. Vous savez que la Bible dit, elle ne put rien dire contre cela, car l'homme était debout au milieu d'eux. C'est vrai. Voici le petit garçon ramené d'entre les morts. Et voici une femme à la colonne abîmée qui se trouve au milieu de nous. Cela vient d'arriver. Il est donc le même hier, aujourd'hui et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Comme nous devrions être heureux de vivre maintenant dans sa présence et de savoir qu'il est ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes contents de voir frère Vail, frère Martin et beaucoup d'autres ce matin. Et puisse le Seigneur vous bénir richement, frère. Je sais qu'il ne fait pas frais ici avec tout ce monde. Et pourtant, lorsque j'ai quitté Tucson l'autre jour, il y faisait environ 40 degrés. Et vers minuit, il y faisait encore 34 degrés. La température ici est donc assez agréable pour moi. Ils ont dit que le vendredi, avant que nous partions, il y faisait 60 degrés. Vous pouvez imaginer la chaleur que cela représente. Bien sûr, c'est dans le désert. Donc, ces trois prochains dimanches, aujourd'hui, le 15, je crois, et cela, ou le 16, le 15, n'est-ce pas? Le 18. Le 28 est le 1er août. Est-ce juste? Le 25, le 18, le 25 est le 1er. Il y aura des services au tabernacle. Ne répandez pas trop cette nouvelle, vous savez, parce que, voyez-vous, nous ne pouvons déjà pas faire entrer ceux qui sont dehors. Et cela serait pire. Revenez si vous pouvez. Puis, je suis aussi ici pour réunir les administrateurs. Cela me contrarie vraiment d'être empêché de tenir une réunion lorsque je me sens conduit à le faire. Ainsi, je pense que je vais demander s'il ne serait pas possible que nous nous procurions notre tente, que nous la dressions et restions là, vous savez. Être ici sur le terrain de baseball ou sur le terrain d'une ferme pour ensuite la déplacer d'un endroit à l'autre, comme le Seigneur conduira. Il me semble que c'est ce qu'il va faire. Vous savez qu'il y a une vision à ce sujet. Et je pense que peut-être la raison pour laquelle ceci arrive, vous savez, souvent nous pensons que c'est terrible parce que certaines choses arrivent. Mais vous savez, il se peut que ce soit Dieu qui vous pousse dans ces choses. S'il l'a dit, il le fera. Il y a quelques soirs de cela, beaucoup d'entre vous, environ un mois avant d'aller en Afrique, beaucoup d'entre vous ont peut-être la bande, vous qui prenez les bandes, sur le choix d'une épouse qui a été prêchée en Californie. Pendant les dernières minutes de cette bande, je ne me souviens pas de m'être trouvé là-bas. Mais l'Esprit du Seigneur s'est manifesté si puissamment. J'avais condamné leur façon de vivre et d'agir, alors que l'Évangile leur avait été prêché et proclamé si souvent. Et tout à coup, le Saint-Esprit parla et dit, Pernahum, voyez-vous, toi qui t'appelles du nom des anges, c'est Los Angeles. Tu t'es élevé jusqu'au ciel, mais tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Voyez-vous? Et après cela, lorsque ce fut terminé, j'étais dehors. Et frère Mosley et Billy étaient avec moi, et ils dirent, je retournai regarder, et tout le parterre était rempli de gens et de prédicateurs qui sanglotaient. Je pris alors l'écriture en disant, il y a quelque chose à ce sujet dans la Bible. Et c'était Jésus qui réprimandait Capernaum et toutes les cités côtières qu'il avait visitées. Eh bien, il dit, Capernaum, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites dans Sodome et Gomorre, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, Sodome et Gomorre se trouvaient au fond de la mer. Et juste après cela, peut-être environ 100 ans après la prophétie de Jésus, Capernaum, la seule ville de la côte qu'il avait visitée, fut secoué par un tremblement de terre qui l'envoya au fond de la mer. Vous savez, c'était une réponse directe pour la Californie, pour Los Angeles. Et juste après mon retour à Tucson l'autre jour, un grand tremblement de terre s'est produit là-bas, et les hommes de science en ont tracé le contour à la télévision. Les journaux ont dit que la terre s'était fissurée l'autre jour des îles Aléoutiennes, ou de l'Alaska, autour des îles Aléoutiennes, à environ 300 km dans la mer, et que cela revenait sur San Diego, faisait le tour de Los Angeles et ressortait à San Diego. Et cette fissure s'ouvrit de plusieurs centimètres. Des maisons se sont effondrées, des motels se sont enfoncés. Et on a posé la question suivante à l'homme de science invité. Cela pourrait-il sombrer un jour? Il a répondu, pourrait, cela arrivera. Il a utilisé des noms scientifiques pour expliquer comment la lave a... C'est ce qui a provoqué ces tremblements de terre sur toute la longueur autour de San Diego et plus bas. Ce terrain-là est creux. Maintenant, tout commence à s'effondrer comme du sable. C'est simplement une croûte et elle s'est ouverte de plusieurs centimètres. On a pu suivre cette fissure au radar, la tracer et voir où elle se trouvait. Elle s'est encore élargie de plusieurs centimètres, peut-être de 5 à 7 centimètres l'autre jour, juste après que cette prophétie eut été donnée. Et ceux qui interviewaient l'homme de science ont dit, « Cela n'arrivera probablement pas dans notre âge. » Il a répondu, « Cela peut être dans 5 minutes ou dans 5 ans, mais ça sombrera. » Madame Simpson, je ne pense pas qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Je vois frère Fred ici, mais je ne sais pas où se trouve Madame Simpson. Elle a repris une prophétie que j'avais donnée vers 1935, ou quelque chose comme cela, et qui disait, le temps viendra, c'est écrit dans un livre quelque part, où la mer se frayera un chemin dans le désert. Regardez ce qui arrivera. Si ces milliers de kilomètres carrés tombent dans la lave de la terre et glissent, il y aura des millions de gens qui mourront d'un... Et cela produira un tel raz-de-marée, souvenez-vous, jusqu'au Salt Sea, qui est à 30 ou 60 mètres en dessous du niveau de la mer. L'eau de ce raz-de-marée viendra probablement jusqu'aux environs de Tucson. La mer se frayera un chemin dans le désert.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our prophets foretold. The Gentile days are numbered with horrors encumbered. Return, O disperse, to your own. We're in the end.
Nous sommes dans les derniers temps.
Now,
maintenant que le Seigneur vous bénisse richement,
I get started on that and forget about
je me mets à parler et j'oublie l'heure.
We're going to fade.
De toute façon, nous allons passer assez rapidement dans l'éternité. Et maintenant, dans Marc au chapitre 7, le verset 7, comme texte pour illustrer ce sujet que nous avons lu dans 1 Chronique 13, comme texte à l'appui, je désire prendre Marc 7, 7. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je ne sais rien d'autre que le message que le Seigneur m'a donné, et c'est tout ce dont je puisse parler. Je vais parler ce matin d'un sujet qui, je pense, serait bon. Et ce soir, je parlerai de la nourriture au temps convenable, si le Seigneur le veut. La nourriture spirituelle au temps convenable et comment la recevoir. Et ce matin, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Et nous voyons ici, par la lecture de 1 Chronique 13, ce que David a fait. Et il était, ses intentions étaient bonnes. Mais Dieu ne nous attribue pas des mérites pour avoir eu de bonnes intentions. Il n'y a qu'une façon de servir Dieu, c'est de faire sa volonté à son commandement. Et Dieu étant souverain, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Il le fait de la manière qu'il sait être correct. Et cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous, et je suis sûr que c'est le cas. Car autrement, l'un voudrait que cela vienne de cette manière, et l'autre que cela s'en aille de telle manière, et un troisième d'une manière différente encore. Mais ce qui est aussi merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissés sans nous faire connaître ce qu'est la vérité et comment la pratiquer. Il serait injuste de nous laisser faire un faux pas et ensuite nous punir si, par ignorance, nous n'avons pas fait la chose comme il se doit. Dieu n'est pas ainsi. Il est un Dieu qui prononce une parole et qui s'attend à ce que ses enfants la croient. C'est pourquoi il sait ce qui est le meilleur et quand le faire et comment le faire. Nous avons nos propres idées à ce sujet, mais lui, il sait. Et alors, s'il avait établi une méthode pour réaliser ses projets et qu'il ne nous ait pas prévenu de ce qui allait arriver et comment cela allait arriver, que nous fassions à cause de cela un faux pas en essayant de faire quelque chose, chacun d'entre nous serait justifié. Mais il n'y a qu'un chemin, et c'est sa parole. Une autre chose, nous voyons ici que David voulait, dans son cœur, faire quelque chose de bien. Il n'avait pas de mauvais motifs ou de mauvais objectifs, mais la maison ou l'arche de l'Éternel était loin du peuple. Et il voulait ramener l'arche de Dieu à sa place, afin que les gens puissent consulter Dieu concernant les choses qu'ils désiraient. Au lieu d'en rester là, nous, que serait-il arrivé si frère Blair et le père de ce petit garçon avaient dit, « Eh bien, c'est vraiment dommage, l'enfant a été touché et il est mort. Je suppose que ce sont des choses qui arrivent. » Mais plutôt, ils se sont adressés rapidement à Dieu. Que serait-il arrivé si cette dame et son mari, lui un ministre de l'Évangile, il y a quelques jours, lorsque cette dame qui vient de se lever a été blessée à la colonne, le docteur dit, elle sera paralysée pour le reste de sa vie. Que serait-il arrivé si le mari, s'il avait dit, « Eh bien, chérie, nous allons nous consoler de cela. » Mais rapidement, ils ont fait quelque chose. Ils se sont adressés à Dieu. Combien d'exemples bibliques pourrions-nous donner, montrant que lorsque les gens ont des ennuis, ils s'adressent à Dieu. Or, en ces jours-là, ils avaient seulement un endroit où rencontrer Dieu, et c'était près de l'arche, sous le sang. C'est encore maintenant le seul lieu de réunion, sous le sang. Le propitiatoire était aspergé pour faire miséricorde à l'adorateur ou au demandeur lorsqu'il venait présenter sa requête à Dieu. Dieu avait établi une marche à suivre spéciale quant à la manière dont vous deviez faire ceci, et il n'acceptait rien d'autre. Il n'acceptait aucune autre façon de faire que celle qu'il avait fixée. Récemment, j'ai prêché un message, beaucoup d'entre vous le connaissent, sur le fait qu'il n'y a qu'un seul endroit pourvu où Dieu rencontre l'adorateur. Et c'est à l'endroit dont il a dit, « J'y mettrai mon nom ». Et si nous pouvons trouver une église dans laquelle il a placé son nom, alors nous avons l'endroit. Il dit, « Je ne vous bénirai pas dans toutes les portes, mais seulement dans les portes où j'ai placé mon nom ». Je le mettrai dans un endroit, et c'est là que tu dois me rencontrer. Et c'est le seul endroit où je te rencontrerai. Et nous avons découvert à travers cela où il avait placé son nom. Et c'est le seul endroit où il rencontre l'adorateur. Et son nom est Jésus-Christ. Le nom de Dieu est Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père. » Tout fils vient au nom de son Père. Et il est venu au nom du Père. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, qu'ils se nomment méthodistes, baptistes, presbytériens, Église de Christ ou n'importe quoi d'autre. Il y a seulement un endroit où Dieu rencontre l'homme, et c'est en Jésus-Christ. C'est le seul endroit. Et toutes ces choses anciennes qui se trouvent dans l'Ancien Testament typifient cela. Je veux que vous le compreniez clairement. Maintenant, c'est une leçon d'école du dimanche. J'ai quelques passages des Écritures et des notes inscrites ici. J'ai pensé que ceci vous aiderait à comprendre, vu que toutes les choses du passé arrivent pour nous servir d'exemple. Nous voyons que Dieu avait une manière de faire les choses. Mais David, qui venait d'être béni par Dieu en devenant roi, pensa qu'il pourrait faire quelque chose pour Dieu, mais il ne s'y prit pas de la façon correcte. Nous remarquons que Dieu révèle sa parole en sa saison prédestinée. Comment Martin Luther aurait-il pu connaître le message d'aujourd'hui? Comment les presbytériens pouvaient-ils? Comment Martin ou l'Église catholique pouvait-elle connaître le message de Martin Luther? Comment John Wesley aurait-il pu connaître le message de Luther? Comment Wesley aurait-il pu connaître le message pentecôtiste? Ou comment les pentecôtistes pourraient-ils connaître ce message? Voyez-vous? Il le révèle en sa saison parce que c'est une semence. Et au fur et à mesure qu'elle croît et mûrit, il se révèle. Ainsi, la chaleur du soleil l'a fait s'ouvrir. Lorsqu'elle est tendre et jeune, il l'a fait sortir du sol, la semence. Ensuite, il lui donne ses feuilles dans une autre phase de l'évolution du soleil. Le soleil brûlant la tuera, si c'est une semence de maturation ou le temps de maturation. Ainsi, il règle le soleil et la nature pour qu'il rejoigne sa parole. Il règle l'Église, les prédestinés, l'épouse, pour correspondre à la saison dans laquelle ils vivent. Même la nature nous dit aujourd'hui, comme nous voyons les nations qui se disloquent, la terre qui s'enfonce, que l'Écriture est sur la muraille. Nous voyons l'Église et l'état dans lequel elle est. Nous voyons l'épouse et l'état dans lequel elle est. Et nous savons par la nature que l'Église se prépare à partir. Quel temps glorieux! C'est un temps que tous les prophètes ont désiré voir. Cette heure. Il révèle donc sa parole seulement en sa saison. Martin Luther lut la même Bible que nous. Wesley lut la même Bible que Martin Luther. Les pentecôtistes lisent la même Bible que nous. Jésus lisait la même Bible que les pharisiens, mais ils avaient, en essayant de garder le grain tel quel, alors qu'il était en train de mûrir, ils n'ont pas vu leur heure. David a fait ici la même chose. Dieu révèle cette parole dans la saison et à la personne qu'il choisit. Dieu choisit à qui il veut la révéler. Il a choisi cela avant la fondation du monde. Toutes ses actions étaient connues d'avance par lui et cachées aux hommes. Il les révèle comme il l'entend. C'est la saison choisie par lui et la personne de son choix. Il n'a jamais choisi un groupe ou une secte. Il choisit une personne. C'est ainsi qu'il fait. Qui osera le reprendre et lui dire, « Seigneur, tu as fait une faute en mettant cet homme dans le ministère. Cet homme ne croit pas comme nous. » Qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire cela? Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus délinquant que moi pour le lui dire.
He knows what
il sait ce qu'il fait.
He knows who to choose and who not to choose.
Il sait qui choisir et qui laisser. Que faire et quand le faire. Peu importe que nous pensions qu'une certaine personne est qualifiée pour faire un certain travail. Dieu sait qui est qualifié pour le temps et la saison concernée, ou le temps et le moment juste pour le faire. Et le réel et véritable chrétien, le réel et véritable croyant en Dieu, s'attend au Seigneur pour ces choses. Attendez-vous à votre ministère. Si vous ressentez un appel, soyez sûr que c'est Dieu. Soyez sûr qu'il est juste. Soyez sûr que ce que vous dites est opportun. La Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. S'ils marchent, ils ne se lasseront point. Regardez David, qui venait d'être un roi d'Israël. Samuel versa l'huile sur lui, et il fut choisi par Dieu pour être roi d'Israël. David reçut cette révélation d'amener l'arche de l'Éternel à la cité de David. Il n'y avait là rien de faux, mais voyez-vous, David s'y prit mal. Il semble que si un homme comme cela recevait une révélation, un grand homme comme le roi que Dieu avait choisi, le plus grand roi qui ait jamais vécu sur la terre, en dehors de Christ, fut, je crois, David, parce que Christ est un fils de David. Ainsi, le plus grand homme, fraîchement oint, venant de la présence même de Dieu, reçut une révélation pour faire quelque chose pour Dieu. Il voulut le faire pour Dieu, mais la révélation était fausse. C'est une grande chose. Cela sera en rapport avec notre sujet. Essayez de rendre un service à Dieu sans être appelé à le faire. Remarquez, David reçut la révélation. Remarquez, ce n'est pas Nathan le prophète qui reçut la révélation, c'est David le roi qui reçut la révélation. De plus, Nathan ne fut jamais consulté à ce sujet. Il ne demanda jamais à Nathan. Avez-vous vu ici dans 1 Chronique qu'il consulta les chefs de milliers et les chefs de centaines? Il ne consulta jamais Nathan. Il consulta le peuple. Et il consulta aussi les prêtres et les théologiens de ce jour, les scribes et les théologiens. David les consulta premièrement. Il dit, si cela vient de Dieu, descendons et amenons l'arche de l'alliance de notre Dieu dans la cité et consultons Dieu avant de faire ces choses. Il est rapporté que du temps de Saül, ils avaient cessé de consulter Dieu par l'arche, l'Urim, l'Urim-Thummim. Ils avaient cessé de le faire. Et David dit, retournons à Dieu, nous tous. Retournons à ce qui est juste. Allons chercher l'arche et amenons-la ici. Amenez, en d'autres termes, la présence de Dieu dans la ville. Ayons un réveil. Ramenons les gens. Il reçut la révélation qui semblait bonne, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Au lieu de se renseigner à la bonne source, il consulta ses capitaines. Parce qu'il venait d'être roi, et il suivit cette ligne de pensée que ses capitaines en chef et ses grands hommes. Ensuite, il alla dans l'église de Nom et demanda s'il pouvait avoir le réveil. Les prêtres, les scribes, les chefs de milliers, les chefs de centaines furent consultés. Est-ce bien la volonté du Seigneur? Et ils répondirent, oui. Mais voyez-vous, il omit de poser la question à la source principale par laquelle Dieu traite toujours. Voyez-vous, il omit de faire ainsi. Or, son intention était bonne, son motif était bon, Son objectif était bon, d'amener un réveil dans la ville et de ramener les gens à Dieu. Mais il ne consulta jamais de la façon dont Dieu lui avait dit de le faire. Voyez-vous, le peuple même et les prêtres étaient d'avis que le roi avait raison. Ils avaient besoin que l'arche revienne dans la ville. Ils avaient besoin de la présence de Dieu. Ils avaient besoin d'un réveil. Mais Dieu n'avait pas promis de révéler sa parole en sa saison à des gens. Il n'a jamais promis de la révéler au roi en sa saison. Et Dieu ne change pas du tout. Il n'a pas promis de faire ainsi. Peu importe combien il y a de sincérité, et combien les motifs et les objectifs sont bons, et combien les gens veulent ces choses, et en voient le besoin. Il y a dans ces choses une volonté de Dieu à exécuter. Ce que je désire, c'est que cela pénètre profondément. Je veux apporter ceci de telle façon que vous devrez le voir si l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est la raison pour laquelle je m'attarde autant ici. Je ne tiens pas à prendre votre temps, à vous qui êtes reliés par le téléphone, mais je désire que vous voyez cela. Si votre temps est écoulé, alors commandez la bande. Cela, peu importe à quel point cela est nécessaire, que tout le monde soit d'accord que c'est nécessaire. Combien cela est la vérité? Il y a encore une chose à savoir. Est-ce la volonté de Dieu? Or, Dieu n'a jamais promis qu'il révélerait ses secrets à ses rois, qu'il révélerait ses secrets à son peuple. C'est pareil à ce qui arriva du temps de Michée, le fils de Jimla. Nous n'allons pas quitter notre texte, mais uniquement changer d'époque pour vous présenter cela et vous le rendre réel, de telle manière que vous ne le manquiez pas. Il y avait du temps de Michée, c'était un homme pauvre, issu aussi d'une famille pauvre. Mais Achab, roi d'Israël, ce peuple étant une nation respectant Dieu, avait mis à part une école et préparé des prophètes sélectionnés et choisis soigneusement. Il y en avait 400 dans cette école. C'était de grands hommes. Ce n'étaient pas des faux prophètes, c'étaient des prophètes hébreux. Des hommes authentiques. Ils consultèrent l'Éternel par le moyen de ces hommes. Et ils prophétisaient. Mais voyez-vous, lorsque la véritable confrontation arriva, ils étaient chacun d'eux en dehors de la parole de Dieu et de sa volonté. Josaphat descendit de Jérusalem à la rencontre du roi Achab. Ils revêtirent leurs habits royaux et s'assirent à l'entrée de la porte. Puis ils amenèrent les prophètes devant eux. Pour commencer, Achab dit, « Il y a un endroit à Ramoth en Galade qui en vérité nous appartient. Maintenant ceci est ainsi dit le Seigneur. » Josué l'avait divisé pour le peuple et le leur avait donné. Mais les Philistins l'avaient repris. « Dit, nos enfants ont besoin de pain, et nous n'avons pas assez de terres cultivables pour produire ce pain. Et nos ennemis, les Philistins, nourrissent leurs enfants, des païens, du produit de la terre que Dieu, Jéhovah, nous a donné. » C'est très direct. Et il dit, « Voici que nous, le peuple de Dieu, sommes ici avec nos enfants dans le besoin. Et notre ennemi nourrit ses enfants d'une terre pour laquelle Dieu nous a appelés hors d'Égypte et qu'il nous a donnée. » Cela révolterait un théologien, n'est-ce pas? Il dit, « Monterons-nous prendre les terres que Dieu nous a données? » Josaphat répondit, « Oui, je t'aiderai, nous sommes frères. tu es dans Juda et je suis dans Jérusalem. Ou était-ce le contraire? Je crois que Josaphat... Quoi qu'il en soit, Josaphat était un homme bon, un roi, un homme juste qui aimait l'Éternel. Achab était un croyant tiède. Ils les firent donc venir, et Josaphat dit, « Écoutez, consultons premièrement l'Éternel. Nous devrions nous enquérir de cela. » Voyez-vous, si David avait fait ce que fit Josaphat, il dit, « Ne devrions-nous pas faire ceci ?» Et rapidement, étant un Israélite, Achab dit, « Certainement. » J'ai 400 prophètes qui sont hébreux comme nous, de notre propre organisation. Je vais les consulter. Ils sont prophètes. Maintenant, voyez-vous, vous dites, cela m'étonne, frère Branham. Un prophète? Oh oui. Il y en avait un du temps de Jérémie qui déclara qu'il serait là-bas seulement 2 ans. L'Éternel avait dit à Jérémie, 70. Il mit un joug autour de son cou et le prophète le brisa. C'était Anania. Mais vous savez ce qui lui arriva? Oh oui. Vous devez rester avec la parole. Ainsi, ces prophètes vinrent, prophétisèrent et dirent, « Montez, car l'Éternel est avec vous. » Et l'un d'eux, je crois que c'est, j'ai maintenant oublié son nom, le chef Sédécias, je crois, dit, il s'était fait 2 cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ceci, cet homme était sincère. Vous repousserez votre ennemi jusque dans ses terres, et vous prendrez ce qui appartient à Dieu. Cela vous est donné. » Je ne crois pas qu'il était un hypocrite. Je crois que c'était un homme bon. Je crois que tous ces prophètes l'étaient aussi. Vous dites, prophète? Oui. Souvenez-vous que l'homme qui consentit à tuer Jésus-Christ prophétisa parce que c'était sa fonction. Il était souverain sacrificateur cette année-là. Et étant donné qu'il avait rempli cette fonction, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Cela ne voulait pas dire qu'il était sauvé ou autre chose pour autant. Il prophétisa Caïphe parce que c'était en rapport avec sa fonction. Et ces prophètes, ayant la fonction de prophète, prophétisèrent. Et l'Esprit de Dieu vint sur eux. C'étaient des hommes avec des dons de l'Esprit. Je réalise que je parle à 99% de pentecôtistes. Mais l'homme, souvent Dieu peut traiter avec eux, leur donner un don, mais les gens se mettront à faire pression sur eux. S'ils ne sont pas parfaitement appelés et envoyés de Dieu, cet homme ou cette femme diront quelque chose qui n'est pas sa volonté, parce que les gens les forceront à agir ainsi. Je dus même reprendre notre propre pasteur ici, à ce sujet. Dans les bois, vers 3 heures du matin, il me dit, « Va dire à Frère Neville, je suis allé vers toi, n'est-ce pas, Frère Neville ?» Tout le monde disait, « Frère Neville, prophétisez à mon sujet, dites-moi ceci ou cela. » Vous lui avez fait dire ainsi des choses qui n'arrivèrent pas. Ceux qui attendent pour découvrir ce que le Seigneur désire faire. Ainsi ces hommes regardèrent cela du côté naturel. Cela nous appartient. Mais voyez-vous, ils ne recherchèrent pas la parole ni la volonté de Dieu. Alors Michée descendit et il eut une vision. Il commença par l'examiner. L'avez-vous remarqué? Il dit, « Attendez, donnez-moi cette nuit, laissez-moi faire des recherches, et peut-être que demain je pourrai vous répondre. » Il n'a pas dit rapidement, « Ainsi dit le Seigneur, comme s'il était d'accord avec les autres prophètes. » Il dit, « J'annoncerai seulement ce que Dieu me dira. » Et nous voyons que le jour suivant, Dieu lui avait dit ce qui arriverait. Et c'était absolument contraire aux autres. C'était contraire à l'école entière. Même l'un d'eux s'avança et le frappa sur la joue pour cela. Voyez-vous, il l'attendit. Alors, en faisant cela, il compara sa prophétie, sa vision, avec la parole écrite. Et elle s'accordait avec la parole. Lorsque quelqu'un dit qu'il a une révélation pour baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est contraire à la parole. Aucun des autres ne le fit. Quand ils disent, « Oh, nous allons nous tenir, et ceci, cela, et encore cela, c'est contraire à la parole. » Lorsqu'ils disent qu'ils ne croient pas à la semence du serpent, c'est contraire à la parole. Toutes ces autres choses, c'est contraire à la parole. Cela doit être selon la parole et dans la saison convenable. Maintenant, si seulement David avait fait cela, l'arche devait venir, mais pas à ce moment-là. Il n'y avait pas d'endroit pour elle. Remarquez maintenant, lorsqu'ils descendirent chercher l'arche, tous les dignitaires dirent, « C'est ce qu'il faut faire, David, gloire à Dieu, nous avons besoin d'un réveil. » Et c'est vraiment la Pentecôte aujourd'hui, les baptistes, les presbytériens. « David, tu es notre roi, le capitaine un tel, le major un tel et le général un tel seront à ta réunion. » Ils disent que c'est ce qu'il faut faire, David, tu as le pays entier avec toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne veux pas le pays, je veux Dieu. Même si personne d'autre ne prend position, David avait tous les capitaines pour lui. Il avait la collaboration des forces armées. Il avait l'approbation de toutes les dénominations, de tous les théologiens, de tout. Tout le monde était d'accord avec lui. C'est ainsi que firent Achab et d'autres dans l'Écriture. Mais il n'avait pas Dieu, parce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. J'espère que nous comprenons ceci. Remarquez, ils ont fait tout ce qui était requis par la religion. Ils ont probablement publié des annonces et tout le reste. Grand réveil, l'arche va être ramenée. Nous allons avoir un réveil. Nous allons faire ceci. Regardez, il envoya des chanteurs. Il envoya des gens avec des harpes, des trompettes. Ils accomplirent tous les actes religieux qu'ils savaient faire. Et malgré tout, Dieu n'était pas là-dedans. Nous voyons cela quelque peu se répéter, n'est-ce pas? Ils convoquèrent tous les chanteurs, les joueurs de harpe et de trompettes, les femmes, les hommes, tous ceux qui chantaient. Ils les emmenèrent tous là-bas et ils suivirent toute la marche religieuse. Je ne veux pas dire ceci, mais je dois quand même le faire. C'est ainsi que font les dénominations aujourd'hui, pentecôtistes et les autres. Ils accomplissent toute la marche religieuse. Ils chantent et poussent des cris. Remarquez, David cria de toute sa force, il poussa des cris, il sauta et accomplit toutes les pratiques religieuses possibles. Et pourtant, Dieu n'était pas là-dedans. Son motif, son objectif et tout le reste était juste, mais il s'y prit mal, voyez-vous? Il accomplit toutes les pratiques religieuses. Il cria, il chanta. Il eut des chanteurs de circonstances, des gens qui criaient et tout le reste. Ils dansèrent dans l'esprit. Ils firent tout ce qui était religieux. Cela ressemble aux grandes croisades de notre temps. Ils voulaient gagner le monde à Christ. Il n'existe pas de telles choses. De grands réveils qui balayent tout, de grandes choses qui arrivent. Si seulement ils pouvaient réaliser que ce temps est passé, elle est condamnée. Ils font des croisades, des organisations et tout le reste. Mais le résultat ressemble un peu à ce qui arriva du temps de David. Cela ne marcha pas. Nous allons quelque part pour avoir un réveil. Certains de nos grands évangélistes aujourd'hui disent qu'ils ont 30 000 convertis en 6 semaines. Et lorsqu'ils retournent, une année plus tard, ils n'en trouvent pas 30. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il y a, c'est qu'ils agissent comme le fit David. De grands dignitaires, de grands hommes, de grands prédicateurs, de grandes écoles, une grande autorité. Mais néanmoins, ils consultent une vieille dénomination au lieu de regarder la parole de Dieu en face pour voir quand la saison est là. Vous ne pouvez faire pousser certains produits qu'à certaines époques de l'année. Maintenant, voyons ce qui est arrivé. Bien que leur émotion religieuse fût grande, et leurs intentions bonnes, que leur croisade fût grande, et leurs chants remarquables, que leurs danses fussent belles, et leurs cris puissants, que leur musique fût grande. et qu'ils eussent l'arche. Mais quel bien l'arche pouvait-elle leur faire sans Dieu? Ce n'est qu'une caisse en bois avec deux tables de pierre. C'est comme le fait de prendre la communion et d'être baptisé. Quel bien cela fait-il d'être baptisé si vous ne vous êtes pas premièrement repenti? Quel bien cela fait-il de prendre la communion si cela fait de vous un hypocrite parce que vous ne vivez pas la vie correcte et ne croyez pas le reste de la parole de Dieu? Si vous en prenez une partie et pas le reste, cela montre que quelque chose ne va pas. Maintenant, lorsque tout ceci arrive, voyons maintenant ce qui arrive lorsqu'il n'est pas tenu compte de Dieu, ni de l'âge et ni du temps qu'il a déterminé, mais seulement de la pensée des gens. Beaucoup de personnes m'ont dit, « Pourquoi ne venez-vous pas ici pour tenir une réunion? Nous vous avons demandé de venir. Signez ceci et encore cela. Attendez. Vous le voulez peut-être, mais que dit Dieu à ce sujet? Beaucoup de personnes m'ont dit, j'ai dû faire attendre certains un an avant de répondre, soit à leur invitation, soit à leur demande d'entretien particulier ou autre. Attendez, comment saurais-je ce qu'il faut dire avant que Dieu me le dise? Voyez-vous, vous devez attendre. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, écrivez-le et laissez-moi voir ce qu'il dit. Voyez-vous? Attendez, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Est-ce vrai? Remarquez, ils consultèrent seulement le sacrificateur de ce jour-là, les théologiens et les dénominations. Et en faisant cela, c'est-à-dire en consultant les sacrificateurs, en consultant l'assemblée et en consultant les gens, ils agirent mal. Écoutez bien, l'arche était la parole. Nous savons que c'est vrai, parce que l'arche était Christ et Christ est la parole. Voyez-vous? L'arche ou la parole ne fut pas placée là où elle devait être à l'origine, comme prescrit. Oh, Église, ne manquez pas de saisir ceci. Tout était parfait et tout paraissait bien, comme si un grand réveil arrivait. Mais parce qu'ils omirent de consulter la personne compétente à ce sujet, ils consultèrent le sacrificateur, ils consultèrent les dignitaires, ils consultèrent les théologiens, ils consultèrent les chanteurs, et finalement, ils s'unirent tous d'un commun accord. Il y avait une grande organisation militaire, et aussi les forces de la nation. Tout était dans l'harmonie pour une grande réunion, mais ils omirent de consulter Dieu. C'est ainsi que fit Achab, c'est ainsi que firent d'autres. Quel moment! Maintenant, ne manquez pas ceci. Ils échouèrent parce qu'ils n'avaient pas demandé conseil. Et en faisant cela, regardez, en allant vers le sacrificateur, en allant vers les théologiens, en allant vers les forces armées, et en ne considérant même pas le messager de l'heure envoyé par Dieu, Nathan, ils agirent mal. Ils allèrent là-bas, prirent l'arche et la mirent sur un char neuf. Ils la mirent sur un char neuf ou sur une nouvelle dénomination qui va démarrer, mais pas sur ce que Dieu avait donné et prescrit pour la transporter. Elle était censée être transportée sur les épaules des Lévites. Mais voyez-vous, lorsque vous commencez mal, vous continuez de même. Si une balle est censée être dirigée vers une cible et que vous bougiez ici le canon d'un poil, à 100 mètres, vous serez à 10 ou 12 centimètres à côté. Vous avez mal commencé. Oh Dieu, aide-nous à comprendre que cette chose a mal commencé. Ces grandes croisades de l'heure, comme on les appelle. On ne consulte pas Dieu à ce sujet. On consulte les prêtres et les hommes religieux. On consulte les organisations. Eh bien, voulez-vous avoir telle chose? Je crois que si nous pouvions réunir tout le monde, ne réunissez pas tout le monde. Consultez simplement la parole de Dieu à ce sujet. Nous voyons que lorsqu'ils font cela, que font-ils? Ils continuent exactement avec le même vieux programme religieux qui est en dehors de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Cette chose mourut il y a des années. Ces vieilles choses sèches d'il y a des années. Cela avait séché au temps du Seigneur Jésus. Il ne le savait pas. Il dit, « Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu, car Moïse a dit que je viendrais. » Ils dirent, « Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. » Il dit, « Ils sont tous morts, aveugles. » C'est ainsi qu'il appelait les pharisiens, les chefs religieux. À moins que vous croyiez que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. Mais ils ne crurent pas. Ils étaient tellement établis dans leurs habitudes. Ils devaient l'avoir à leur façon. C'est ainsi que fit David. Il avait son idée. C'est pourquoi il dit, « Savez-vous ce que je vais faire ? Nous avançons. » Il avait une révélation. « Nous avançons maintenant. Nous allons faire cela autrement. » Le temps des miracles est passé, alors nous allons simplement commencer une autre organisation. Nous construirons un nouveau char et nous leur montrerons la chose qui vient de commencer. Quelle fausse prophétie! Vous devez retourner à la manière que Dieu a indiquée. Ils la mettaient sur les épaules des Lévites et cela se trouvait sur leur cœur. L'arche, la parole, ne doit pas être portée sur une nouvelle dénomination, sur les théories d'un certain homme, mais dans le cœur. La parole de Dieu ne doit pas être manipulée par des dénominations. Elle doit être maniée par le cœur d'un homme dans lequel Dieu peut venir se révéler. S'il révèle cela en accord avec la parole, c'est Dieu. Si ce n'est pas ainsi, ce n'est pas lui. Et de plus, cela doit être la parole pour cette saison. Assurément, un pharisien pouvait dire, « Qui nous a dit que nous ne pouvions pas faire ceci et faire cela ? Moïse nous a donné ses ordres. » Mais Moïse a aussi dit, Satan a dit, « Il est écrit, il donnera des... » Il est aussi écrit, a répondu Jésus. La saison, le temps, si vous aviez connu Moïse, vous en avez un qui vous accuse, c'est Moïse. Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu, leur a-t-il dit, car Moïse a écrit à mon sujet. L'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Lui, vous l'écouterez. S'ils avaient connu Moïse, ils l'auraient connu. Maintenant, écoutez attentivement. Ne manquez pas ceci. Voyez-vous, premièrement, en consultant le sacrificateur, en consultant les dignitaires, en consultant les militaires, en consultant toute l'assemblée et le voisinage, en vue du grand rassemblement qu'ils prévoyaient, ils ne s'y prirent pas correctement. Ils ne consultèrent pas Dieu. Et, en faisant ainsi, en ne revenant point en arrière pour voir quel temps c'était, « Oh, frère, écoutez, dans quel temps vivons-nous ? Dans quel âge ? Dans quelle heure sommes-nous ? Ce n'est pas le temps pour les choses dont ils parlent. C'est passé. Le jugement est proche maintenant. Vous pouvez le voir apparaître. Vous souvenez-vous de la pierre sur la montagne? C'est l'heure du jugement. Vous souvenez-vous de la révélation ou de la vision de l'épouse? Maintiens-la au pas. Ne la laisse pas sortir du pas. Remarquez, sur les épaules du sacrificateur, David et tous les sacrificateurs qui auraient dû pourtant s'y connaître, mais qu'étaient? Les sacrificateurs auraient dû savoir cela. Les scribes, les théologiens auraient dû le savoir. Parce que la parole disait de ne pas le faire ainsi. Et aujourd'hui, lorsqu'ils se mettent à dire, « Oh, Jésus-Christ n'est pas le même, hier, aujourd'hui et à jamais. » C'est de la télépathie mentale, c'est ceci ou cela. Ils ne voient pas la parole promise. « Oh, c'était dans le passé. » David dit, « Oh, bon, maintenant, attendez une minute. » Sur les épaules des sacrificateurs. C'était il y a longtemps lorsque Moïse sortit. Mais aujourd'hui, nous la mettrons sur un nouveau char. J'en ai reçu la révélation. Les sacrificateurs dirent, « Amen, David. » Voyez-vous? C'est l'influence de leur nouveau conseil œcuménique qui leur disait qu'ils devraient être tous ensemble et faire ceci et comme cela, qui fit trébucher les sacrificateurs. Ils ne consultèrent jamais la personne qualifiée. Ils n'agirent pas correctement. C'est pourquoi ils eurent des ennuis. Oui, en effet. Je crains que beaucoup de ces choses d'aujourd'hui, lorsqu'un grand docteur, un des plus grands pentecôtistes, s'est trouvé devant le groupe religieux l'autre soir à Chicago, j'étais censé avoir cette réunion avec les hommes d'affaires, mais j'ai pensé que je serais à ce moment-là en Afrique. Je suis revenu juste un jour avant que ça commence. Elles choisirent un grand bancotiste intellectuel qui se leva et leur dit que ce mouvement œcuménique était Dieu. Il dit qu'ils reviendraient tous, que même l'Église catholique va revenir à sa condition originelle, tous parlant en langue, comme évidence, ainsi de suite, ne sachant pas que c'est un piège du diable. Et un homme que je ne connaissais pas, quelquefois vous plantez de la semence sans savoir ce qui va arriver. Ainsi, le président des hommes d'affaires du plein évangile dit, aussitôt que le grand orateur s'assit, je suis enclin à ne rien dire contre nos orateurs, mais ce n'est pas ainsi que frère Branham a dit que ça arriverait. Il a dit que cela conduirait à la marque de la bête. Il répondit, « Mais frère Branham ne sait pas de quoi il parle. » Il répliqua, « Nous croyons le contraire. » À Chicago, ils ont demandé combien aimeraient que je vienne pour donner ma version à ce sujet. Alors ils ont commencé à crier et à jubiler. Voyez-vous, vous plantez des semences, vous ne savez pas ce qui va arriver. Continuez simplement à répandre la semence. Quand c'est l'heure, certains d'entre eux... Prenons Thomas, il fut presque le dernier à voir le Seigneur, mais il dut le voir pour le croire, voyez-vous? Lorsqu'il voit cela arriver, oh, Thomas entra, mais il était un peu en retard. Maintenant, quand il voit que les choses qui ont été prédites par le « Ainsi dit le Seigneur » arrivent, ils disent alors, « Donnez-nous un peu de votre huile, voyez-vous? » Mais maintenant, remarquez l'influence. Parfois, de grands hommes se réunissent. Vous les entendez parler du grand un tel et de l'autre grand un tel. Notre grand, ne faites jamais cela. Il n'y en a point de grand parmi nous. Il n'y en a qu'un qui soit grand, et c'est Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Peu m'importe si vous êtes le pasteur d'une église composée de 5 personnes. Cela ne vous fait pas petit. Cela fait de vous un frère, voyez-vous, si vous êtes fidèle à la parole de Dieu. Peu m'importe quoi ou comment, vous ne devenez pas petit. Dieu n'a pas de petits-enfants et de grands-enfants. Il a simplement des enfants, et ils sont tous pareils. Notez que Dieu lui-même est descendu des palais d'ivoire de la gloire pour devenir l'un de nous. Maintenant, qui est grand? Il n'est pas venu ici pour prendre la forme d'un sacrificateur, mais plutôt d'un serviteur. Qu'il lava l'argile même qu'il avait créée, les pieds de ses apôtres. Maintenant, qui est grand? Mais ces hommes furent influencés. Ils ne comprirent pas. Ils pensèrent que quelque chose de nouveau allait arriver. Non, quelque chose que Dieu n'avait pas annoncé. Ils s'y prirent de la mauvaise façon. C'est ce que tout cet enthousiasme, lorsqu'ils débutèrent il y a longtemps, chaque dénomination devait avoir un guérisseur divin. Chaque dénomination devait avoir ceci ou cela. Chaque dénomination devait avoir un petit David. Chacune devait avoir ceci ou cela. Voyez-vous ce qui arriva? Cela produisit la même chose qu'ici. La même chose. L'influence. La parole pour cette saison, pour le temps dans lequel ils vivaient, fut ignorée. Remarquez, les épaules des Lévites étaient à l'origine le moyen pourvu par Dieu pour faire ces choses. Transportez cette arche sur les épaules des Lévites. Tout autre moyen était contraire. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il voulait dire. Dieu ne peut pas changer. C'est la raison pour laquelle il faut rester avec sa parole. J'ai 1 Chronique 15-15, si vous voulez l'inscrire. Maintenant, remarquez, là, en suivant Dieu, je désire que vous reteniez ceci dans votre esprit. Gardez les commandements de Dieu pour faire n'importe quoi correctement pour Dieu, pour rendre un service à Dieu correctement. Il y a 5 conditions qui doivent être remplies. Ceci afin de rendre un service à Dieu correctement. Or, David voulait rendre un service à Dieu. Il fit tout ce qu'il savait faire, sauf qu'il oublia Dieu, voyez-vous. Il fit quelque chose qui était juste, quelque chose qui était bon pour les gens et pour l'Église. Mais il y a 5 conditions à remplir obligatoirement. Je veux que vous vous en souveniez. Peu m'importe à quel point un homme est sincère dans ce qu'il fait en voulant rendre un service à Dieu, il y a 5 conditions qui doivent être remplies. Premièrement, cela doit être fait au temps choisi par Dieu. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait dit, Nous allons construire une arche pour naviguer sur le Nil comme Noé. Le temps de Noé était le temps convenable pour une arche, mais passons temps à lui. Que serait-il arrivé si Jésus était venu et avait dit, « Maintenant, laissez-moi vous dire ce que nous allons faire. Nous allons monter sur la montagne comme Moïse pour y recevoir une nouvelle déclaration des lois. » Voyez-vous? Il était cette loi. Voyez-vous, vous devez vous trouver dans son temps. Cela doit être dans sa saison. Avez-vous saisi cela maintenant? Cela doit être en son temps. Cela doit être dans sa saison, dans son temps et sa saison. Et cela doit être en accord avec sa parole qui a été prononcée. Cela doit, peu m'importe que vous disiez qu'il devrait y avoir ceci ou cela, cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps et sa saison. Et cela doit être donné par la personne qu'il a choisie pour le faire. Peu m'importe qu'il y ait des dignitaires. Là se trouvait le roi David, qui était aussi grand que n'importe lequel d'entre eux. Il était roi sur la nation. Cependant, Dieu avait une façon de faire, et il leur avait dit comment il allait s'y prendre. Mais eux ne respectèrent pas cela. Cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps, en accord avec son programme. Et cela doit être fait par la personne qu'il a choisie pour le donner et pour l'accomplir. Moïse essaya de fuir loin de cela. Prends quelqu'un d'autre. Mais Dieu choisit Moïse pour l'accomplir. Beaucoup d'entre eux, Paul essaya de se sortir de là. Beaucoup d'autres aussi. Mais cela doit être fait par celui qu'il choisit. Et cela doit venir premièrement à ses prophètes. La parole de Dieu doit venir à ses prophètes. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé cela premièrement à son serviteur, le prophète. 4. Et le prophète doit être confirmé par la parole de Dieu. Aux 5 conditions à remplir obligatoirement. Cela doit être ainsi. Son temps, sa saison, quand il a dit que cela serait, l'homme qu'il a choisi, et cela doit venir au prophète. Et le prophète doit être un prophète confirmé. Nous voyons dans la Bible que beaucoup s'appelaient prophètes, mais qu'ils n'étaient pas confirmés. Notre prophète est Jésus-Christ. Maintenant, notez ceci, voyez-vous, Dieu ne leur avait pas révélé la chose de la façon prévue. Ils avaient accepté la façon de David, ils avaient accepté la façon des sacrificateurs, ils avaient accepté la façon des scribes, des théologiens, mais pas la façon de Dieu. Nathan était lui le prophète de ce jour-là. Car Nathan leur dit comment le faire. Mais voyez-vous, ils agirent sans consulter Nathan. Nulle part il n'est dit que Nathan ait été consulté. Toute l'influence, la grande chose qui se produisit. Oh là là, je pense à ce chant. Laisse, garde, aide-moi Seigneur quand les cœurs sont embrasés. Abaisse mon orgueil pour marcher avec les autres et laisse-moi invoquer simplement ton nom. Enseigne-moi à ne pas me fier à ce que font les autres, mais à attendre simplement dans la prière une réponse de toi. C'est ainsi. Laissez-moi le voir arriver de la façon correcte. Alors on le croira. Bon, Dieu leur révéla la chose par David, par les prédicateurs, par les gens, par les chefs de milliers et les chefs de centaines, mais pas par Nathan qui avait le « Ainsi dit le Seigneur ». Et le Seigneur a dit qu'il ne ferait rien avant d'avoir montré premièrement aux prophètes de l'âge ce qu'il faut faire. Voyez-vous ce qu'ils firent? Ils sortirent carrément de la parole de Dieu en allant déposer l'arche sur un char neuf. Voyez-vous? Ainsi, ils firent cela sans tenir compte du commandement de Dieu et de la façon qu'il avait instituée. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, mes amis. C'est pourquoi nous avons eu tant de grandes croisades et d'autres choses sans résultat. Plus d'infidélité, plus de péché, plus, laissez-moi vous dire, notre nation est à sa fin, pas seulement notre nation, mais aussi d'autres nations. Notre nation, comme l'Angleterre à une autre époque, a été la prostituée de toutes les zones. tout au fond du Mozambique, à 770 kilomètres de la civilisation, dans la jungle, de jeunes beatniks écoutent Elvis Presley en secouant la tête et en sautant ainsi. La nuit durant, avec au son de leur petite radio, ils vont jusqu'en Rhodésie, soit 1600 kilomètres plus loin, capter la voix d'Elvis Presley. De plus, ils disent, il est très religieux, de même que Pat Boone et les autres. Pourtant, c'est le Judas de l'heure, et ils ne le savent pas. C'est ce qui est grave. Ils croient avoir raison. Jésus n'a-t-il pas dit à cet âge de l'église de Laodicée, « Tu es nue, misérable, malheureuse, aveugle, et tu ne le sais pas. » Tu ne le sais pas. Les jeunes pentecôtistes qui sont en Afrique et ailleurs disent, « Elvis Presley, vous n'avez jamais entendu chanter quelqu'un aussi bien que lui. » Sans doute, David le fit aussi. Sans doute, les chanteurs le firent. Mais cela fit que la mort frappa le camp. Voyez-vous, nous en sommes aujourd'hui, mes amis. Les épaules des Lévites étaient à l'origine la façon choisie par Dieu pour faire cela. Mais eux la mirent sur un charnin. Eh bien, cela ne marchera jamais. Ils ne consultèrent pas la bonne personne. Voyez-vous, ainsi ils s'y prirent de la mauvaise manière. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, essayent de lui rendre un service différemment, de la manière dont il a prévu de le révéler, il gâche toujours tout. Dieu agit à sa manière. Vous, hommes, peu importe avec quelle sincérité vous essayez d'agir différemment, vous allez tout gâcher. C'est pareil à ce qui arriva à Balaam de son temps. Dieu dit à Balaam, ce prophète, il était prophète, c'était le prophète Balaam. Il était prophète. Et la parole vint à lui avec précision et lui dit, « Ne va pas là-bas, ce sont ceux que j'ai choisis, c'est mon choix. » Et Balaam se retrouva avec les dignitaires, les militaires, les prédicateurs, les hommes influents, et dit, « Eh bien, laissez-moi vous dire, le roi, voyez-vous, ce qui s'est passé en ce temps, comme pour David, se répète aujourd'hui. Prenez tout sous forme de type et vous le verrez. Si vous le voyez, dites « Amen ». Voyez-vous, c'est pareil maintenant. Mais les ecclésiastiques dirent, les sacrificateurs dirent, les scribes dirent, les théologiens dirent, c'est ainsi que cela doit être fait. Mais cela n'était pas juste, et il fut prouvé que cela ne l'était pas. Dieu rappela premièrement à Balaam qu'il était un prophète. Il lui dit, ne va pas là-bas. Mais l'influence de ces autres hommes lui fit faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Et ce devint une malédiction au lieu d'un réveil. Oh, assurément, il alla là-bas et enseigna les gens, leur disant, « Maintenant, attendez, vous savez quoi? Nous sommes Moabites. » Souvenez-vous que la fille de Lot est notre reine. Elle est notre ancêtre. Nous sommes tous de même sang. Nous sommes tous, toutes nos dénominations sont les mêmes. Ne vous mélangez pas à cela. Restez-en éloignés, voyez-vous. Il dit donc, nous sommes tous pareils. Votre peuple est comme mon peuple. Nous pouvons nous marier entre nous. Ainsi, nous pourrons avoir un véritable conseil œcuménique, voyez-vous. Nous pouvons tous nous rassembler et revenir à la chose originelle. Dieu maudit cela. Ce péché ne fut jamais pardonné à Israël. Il resta avec eux le reste de leurs jours. Il ne fut jamais pardonné. Ils périrent dans le désert avec lui, c'est vrai, parce qu'ils ne suivirent pas la façon que Dieu avait prévue et confirmée pour faire les choses. Remarquez que ce qu'ils firent eut pour conséquence qu'Israël mourut dans le désert. Et Jésus a dit, tous ont péri et sont morts. Observez qui resta là-bas avec Moïse, Josué et Caleb, et le programme. Regardez de nouveau, voici David et ce qu'il fit. Lorsqu'il l'eut fait, que se produisit-il? La mort frappa une personne sincère. Je pense que nous sommes toujours en ligne, et je veux que vous entendiez cela à travers le pays. Ce que fit David, sans consulter Nathan pour recevoir la parole du Seigneur à ce sujet, eut pour conséquence que la mort frappa des gens sincères. Oui, il avança la main, lui qui avait vécu dans la présence de l'arche, alors qu'elle sortait de sa maison. le bœuf avait trébuché et l'arche allait verser. Il avait déjà commis une erreur, deux erreurs. Premièrement, ils ne consultèrent jamais Nathan. Ensuite, ils allèrent là-bas sans avoir consulté la parole de Dieu. Samuel était la parole en ce temps-là. Ils ne consultèrent jamais la parole du Seigneur. Et en faisant ainsi, ils agirent contrairement à la parole de Dieu. Et cet homme bon, qui avait été le gardien de l'arche, c'était un évêque. Pensa, je ne veux pas qu'on laisse tomber Dieu. Il posa donc sa main sur l'arche, lui qui n'était pas un lévite, et il mourut. Trois erreurs. Maintenant, pensez-y sérieusement et regardez ce que les dénominations ont fait aujourd'hui. Voyez-vous, ils ont rejeté cela, l'appelant fausse doctrine. Ils l'auront bien leur conseil œcuménique. Ils ont appelé cela de la télépathie, alors que Dieu lui-même a confirmé et prouvé que c'était la vérité. Ce n'est qu'une bande de nigauds là-bas, disent-ils. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est vrai, nous ne le savons pas, mais nous ne faisons que prononcer ses paroles, et lui sait de quoi il parle. Voyez-vous? Je ne peux pas l'expliquer. Personne d'autre ne le peut, mais il le prouve. Maintenant, remarquez, aujourd'hui, de nombreux croyants sincères qui viennent à Christ, qui désirent venir de tout leur cœur, sont tués spirituellement de la même manière. Beaucoup d'hommes sincères vont à l'Église catholique et veulent devenir des chrétiens. Ils vont chez les méthodistes, les baptistes, l'Église de Christ, et même chez les pentecôtistes, voyez-vous? Et veulent devenir des chrétiens. Ils mettent leurs mains à cela et se joignent à eux. Lorsque David vit cette chose arriver, cela le réveilla. Ne vous réveillez pas trop tard, frère, qui êtes là-bas. Il vit que la mort avait frappé. Montrez-moi les résultats. Qu'a fait à la nation, au corps des croyants, ce soi-disant réveil servant à ramener les gens dans les églises? Rien, si ce n'est de faire naître de nouvelles organisations et dénominations, et avoir plus de membres, et ainsi de suite. La nation est-elle meilleure? Ils dirent qu'ils allaient l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. C'est une nation. C'est un pays chrétien. C'est un million de kilomètres loin d'être un pays chrétien. Je ne prie même pas pour lui. Comment puis-je prier pour lui s'il ne se repent pas sous l'effet de la grande puissance de Dieu démontrée devant lui, s'il nie, ferme les portes à cela et s'en éloigne? Je le confie à Dieu. Il s'éloigne toujours plus et maintenant il va sombrer. Observez ce qui arrive. Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à quelque organisation, groupe ou culte, et là ils meurent spirituellement. Vous ne pouvez rien leur dire. Ils ont ces choses enracinées en eux. Bien, ces évêques ont dit ceci, et celui-ci a dit cela, et ainsi de suite. Vous leur montrez ici même dans la parole de Dieu où c'est ainsi dit le Seigneur. Mais notre pasteur, peu m'importe ce que dit votre pasteur, peu m'importe ce que je dis ou ce que quiconque dit, si c'est contraire à la parole de Dieu confirmée, l'heure, le temps, le message, et ainsi de suite, oubliez-le. Tenez-vous éloigné de cela. Je devrais me tenir devant chacun de vous au jour du jugement. Vous le savez. Et je ne dirai pas cela sans raison, sachant que je suis âgé maintenant. Ce n'est pas que je sache quelque chose, mais lui le sait. Je ne fais que suivre ce qu'il a dit. Regardez aujourd'hui les grandes croisades que nous avons eues à travers le pays. Il était prouvé que c'était en vain. Jésus n'a-t-il pas dit ici dans Luc 7:7, c'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain que David fit monter l'arche. C'est en vain qu'Akab forma ses prophètes. C'est en vain que Balaam prit cet argent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ce sont les commandements de Dieu qui comptent. Peu importe combien, ces gens sont vraiment sincères. Vous entendez tellement dire cela. Ils sont si sincères. Cela ne veut rien dire du tout. Les témoins de Jéhovah, les adventistes du septième jour et tous ces cultes vont là, dans la rue. Ils font des choses qu'aucun de nous ne ferait. Des catholiques se tiennent au coin de la rue, demandant la charité, étant rattachés à certains de leurs ordres religieux. Bien qu'ils possèdent des milliards de dollars, ils continuent à mendier. Ils sont sincères, sans doute. Les églises vont et prêchent, et les prédicateurs se tiennent à la chair, et font tout ce qu'ils peuvent pour avoir de nouveaux membres dans leur église. Mais c'est une nouvelle arche. Il n'y a qu'une arche à suivre, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à cette arche, tenez-vous-en éloigné. C'est sur un char neuf, et non sur les épaules de Dieu. C'est vrai. Tenez-vous éloigné de cela. N'ayez rien à faire avec cela. Dans nos grandes croisades, des milliards et des millions de gens ont fait une confession. Et je doute qu'il y en ait 100 de tout ce nombre. Voyez-vous, ça ne veut rien dire du tout. Alors regardez à la parole promise. Penserez que c'est là un échec. Nous savons que c'en est un. Certains de nos plus grands revivalistes dans ce pays, aujourd'hui, disent que cela a été un échec complet. L'Église sait que c'est un échec. Tout le monde sait que c'est un échec. Pourquoi cela? Pourquoi cela a-t-il échoué? C'était pourtant fait dans un but louable. C'était pour amener les gens dans la présence de Dieu, ces grandes croisades. Et des millions de personnes ont dépensé leur argent et l'ont mis dans de grandes croisades. Toutes les églises se sont rassemblées pour avoir de grands auditoriums et de grandes manifestations et de grandes choses sont arrivées. Pourquoi cela a-t-il échoué? C'est parce qu'ils n'ont jamais su l'heure dans laquelle ils vivaient. Ce n'est pas étonnant que Jésus soit resté là et qu'il ait pleuré dans son cœur. Les larmes coulaient sur ses joues et il a dit, « Jérusalem, ô Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Tu as lapidé tous les prophètes que je t'ai envoyés et tu ne les as pas voulu. Maintenant ton heure est venue. Ne pouvez-vous pas sentir le Saint-Esprit criant à travers vous? Ô États-Unis et monde, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre heure est arrivée. Votre Dieu du plaisir, votre Dieu de la corruption, votre Dieu de Sodome et Gomorre, qui est venu parmi vous. Même nos petits-enfants ont les cheveux coiffés à la Beatle, les franges tombant sur leur visage. Ce sont de petits pervertis qui commencent. Nos femmes sont finies, elles sont au-delà de la rédemption. Nos hommes sont devenus de grosses poules mouillées qui se promènent avec de petits pantalons courts et qui agissent comme des filles, leurs cheveux leur tombant sur le cou et... Nous sommes des sodomites et le feu et la colère de Dieu nous attendent. Savez-vous comment il va tuer? Comment il va détruire cela? De la manière dont il l'a toujours fait. Lorsqu'une prostituée faisait quelque chose de mal, elle était lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. On ramassait des pierres pour tuer la femme qui était une prostituée. C'est ainsi qu'il tuera l'Église. La Bible dit qu'il fera tomber du ciel des grêlons pesant chacun 45 kilos et qu'il les lapidera. Qui va l'arrêter? La science dira-t-elle que cela ne se peut pas? Fera cela de la même manière qu'il fit l'arche et fit flotter Noé sain et sauf. Il le fera de nouveau pour son Église. Et par ses propres lois et sa propre manière, il lapidera cette prostituée qui a commis adultère avec les rois, les chefs de centaines et de milliers. Il la lapidera selon les lois qu'il a lui-même établies. Qui va lui dire qu'il ne peut pas faire un grêlon? Demandez à quelqu'un qui sait comment se forme une goutte de pluie. Elle décrit un cercle, puis passant à travers une sorte d'effet de turbine, elle en ramasse toujours plus, jusqu'à ce qu'elle ait atteint un certain poids. Ensuite, elle tombe. Dieu, que la gravitation même ne put retenir sur la terre, s'éleva dans le ciel. Dieu, qui fit la gravitation, peut aussi faire une sorte de turbine assez grosse pour faire tournoyer une pierre jusqu'à ce qu'elle pèse 45 kilos. Il a dit qu'il le ferait, et il le fera. Qui lui dira de ne pas le faire? Il le fera parce qu'il l'a dit. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes près du jugement. Ils essayent de manger de la vieille manne, tombée là-bas il y a 50 ans. L'Église pentecôtiste, l'Église de la sainteté, essaye de remonter jusqu'à 200 ans en arrière. Les luthériens, jusqu'à 300 ans et plus, voire des centaines d'années, ils essayent de manger de la vieille manne. Oh, frère, cette chose est stagnante. Elle est contaminée. Elle est, comme je l'ai toujours dit, grouillante de vermisseaux, d'asticots. Cela vous tuera si vous en mangez. Regardez, si David ou n'importe lequel des autres avait seulement consulté le pain de cette heure, si les sacrificateurs, les prophètes, les prédicateurs, les théologiens, les écoles et les dénominations avaient seulement consulté l'heure, mais maintenant, cela ne leur fera aucun bien. C'est déjà dépassé. Cela ne sera d'aucune aide. Elle est finie maintenant. Elle a franchi cette ligne il y a environ 5 ans, entre la repentance, le jugement et la grâce. Remarquez, qu'est-ce alors? Que peut-on faire? Que doit-on faire? Consultons le prophète, la Bible, à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher, car si nous ajoutons ou retranchons, Dieu nous efface du livre de vie. Annoncez dans Malachie 4 ce qui arriverait dans nos jours, et dans Apocalypse 10 que les 7 sceaux seraient ouverts et révéleraient tous ces mystères qui ont été cachés au travers de ces réformateurs. Il a dit comment cela arriverait. C'est dans la Bible. Ainsi dit le Seigneur. Dieu a complètement, parfaitement identifié et confirmé cela, comme mettant la vérité par des signes, des prodiges dans les cieux, et tout le reste pendant 33 ans. Pensez-vous qu'ils écouteront cela? Non, ils sont morts. Ils ont mis leurs mains à quelque chose qui a tué le tout. Non, cela n'arrivera plus. C'est au moment où cette chose arriva que David réalisa. « Ô Dieu, envoie-nous un David qui puisse voir où il se trouve, qui puisse regarder et voir que Dieu a fait une promesse, disant comment il va faire cela aujourd'hui. » Dieu a dit, ici même dans sa parole, comment il le ferait. Dieu parla à Michée, celui-ci examina sa vision devant 400 imposants prophètes. Il examina sa vision pour voir s'il était juste. Il regarda en arrière pour voir ce que le prophète avant lui avait dit et ce qui était arrivé. Il vit Élie qui se tenait là et qui disait, « Achab, les chiens lécheront aussi ton sang. » Il vit alors que cette vision concordait exactement avec la parole de Dieu et il la fit connaître et il avait raison. C'est vrai, peu importe ce que les autres disaient, il resta exactement avec cette parole. Maintenant, regardons à la vision que nous avons aujourd'hui. Est-ce construire des églises? Est-ce construire de nouvelles choses? Sont-ce de grandes choses qui vont arriver? Ou est-ce le jugement? Regardez en arrière et voyez la promesse pour aujourd'hui. Voyez quelle est la saison dans laquelle nous vivons. Vous dites, que Dieu soit béni, frère. Je suis sincère. Je fréquente l'église. Je suis licencié en lettres. J'ai fait ceci. C'est en règle. C'est bien. Je n'ai rien contre cela. David aussi avait cela. Les sacrificateurs de ce jour-là l'avaient aussi. Les théologiens de même. Mais c'était contraire à la parole. Dieu a dit comment il agirait aujourd'hui, comment il restaurerait toutes choses et ce qu'il ferait de nouveau. Il a promis de restaurer. C'est exact. Dans Joël 2:28, il a promis qu'il restaurerait. Je vous remplacerai, dit l'Éternel, toutes les années qu'ont dévoré le Jélec. Voyez-vous, c'est un même vers pris dans une phase différente de sa vie. Et quand le catholicisme commença à manger de cet arbre, puis les luthériens, les méthodistes, les pentecôtistes et les autres, il dit, « Je restaurerai toutes choses afin de ramener l'Église à sa condition première. » Regardez la vision de l'autre soir. Exactement la même épouse qui était venue de ce côté revient là. Après cela, les prostituées passèrent avec leurs robes, leurs petites choses simplement ainsi, en dansant au son du rock'n'roll et s'appelant elles-mêmes l'Église. Vous dites, « Mais nous ne faisons pas cela. » C'est ainsi que Dieu vous voit. Ce n'est pas ce que vous voyez vous-même. C'est la manière dont Dieu vous voit. Nul homme ne se voit dans l'erreur. Mais c'est quand vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu qu'elle vous dit si vous êtes dans l'erreur ou pas. Si David avait fait cela, il aurait vu son erreur. Si Achab avait fait cela, ou si ses prophètes avaient fait cela, ils auraient vu leur erreur. Un prophète confirmé avait dit qu'Achab mourrait et que les chiens lécheraient son sang. Et sa prophétie concordait exactement avec cela. Alors il sut qu'il était dans le vrai. Même Josaphat aurait dû le voir et savoir cela. Lorsque Michée reçut la vision, il n'était pas tellement avec les gens de ce temps-là, mais il avait le « Ainsi dit le Seigneur ». Il avait raison. Remarquez, reportons cette chose-là à notre jour et considérons l'heure décisive à laquelle nous arrivons. Remarquez aussi ce que David essaya de faire. J'avais ici une petite note à ce sujet. Il essaya d'amener l'arche dans la cité de David, sa propre dénomination. Regardez en arrière, lorsque le Seigneur parla pour la première fois ici sur le fleuve, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue. Frères, les assemblées ne pouvaient pas supporter cela, les unitaires et les autres non plus. Il devait en avoir un quelque part. Ah, ils voulaient tous le faire, voyez-vous, exactement. Tous voulaient l'amener dans leur propre maison. Ils voulaient l'amener dans la cité de David. Mais il n'y avait pas d'endroit préparé pour elle. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas apporter le message à une dénomination. La parole, l'arche, Christ, le même hier, aujourd'hui et à jamais, est toute son identification. Vous ne pouvez pas l'apporter à votre organisation, ils ne le croiront jamais, parce qu'il n'y a pas de place pour cela. La Bible ne dit-elle pas qu'il était en dehors de l'église de l'âge de Laodicée, essayant d'entrer? Il n'y avait pas de place dans la cité de David. Peu importe combien c'était loyal et combien c'était grand et ainsi de suite. Ce n'était pourtant pas le bon endroit. Elle devait être à Jérusalem. C'est là qu'elle alla plus tard, lorsque le prophète leur eut dit ce qu'il fallait faire d'elle. Voyez-vous? David voulut donc l'amener dans sa propre cité. Mais là, il n'y avait pas de place préparée pour elle. Christ est notre arche. Et ils ne veulent pas la recevoir. Christ est la parole. Ils ne veulent pas la recevoir. Ils veulent leur credo, leur dénomination, une nouvelle arche ou un nouveau porteur. Ils veulent que la dénomination la porte, une nouvelle arche. Souvenez-vous, Christ est notre arche. Voyez-vous que Christ est la parole? Alors c'est l'arche, est-ce vrai? Très bien. Christ ne peut être transporté à son emplacement correct par aucun char dénominationnel. Il traite avec une personne et non avec un groupe. Il n'a jamais traité avec un groupe, mais avec une personne. S'il le faisait, il serait en contradiction avec sa parole. Amos 3:7. Et vous ne pouvez la faire mentir. Non, monsieur, elle est vraie. Mais voyez-vous, ils essayèrent. L'arche ne peut pas être transportée par une organisation. Il y a trop de têtes. Voyez-vous, cela ne se peut pas. Il a promis qu'il ne le ferait pas, et il ne le fera pas. Il a dit, étant donné qu'il a promis de le faire d'une autre manière, voilà pourquoi il ne le fera pas autrement. N'ayez pas ces pensées, je peux le sentir, voyez-vous. Il a donc promis qu'il le ferait d'une certaine manière, et tout ce qui est contraire à cela, il ne le fera pas, voyez-vous. Mais c'est d'après sa manière originelle, selon ce qu'il a dit dans Amos 3:7, qu'il le fera. Et cela doit être confirmé et prouvé comme étant vrai. Maintenant, vous savez ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait, qu'il ouvrirait ses 7 sceaux et tout ce qu'il ferait. Qu'il révélerait les mystères, montrant comment ses baptêmes et toutes ces choses avaient été complètement brouillées. Et c'est ici, dans sa présence même. La science l'a prouvé. Les cieux l'ont déclaré. Des hommes ont regardé cela et l'ont vu arriver. Il n'y a pas une chose qui ait été annoncée et qui n'ait pas été confirmée. Vous y êtes, simplement afin que vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, tout homme qui a tous ses esprits sait, ou sur qui repose l'Esprit de Dieu, sait que ceci est la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu ne dira pas le contraire de la parole. Non, non, il sera exactement avec la parole. Vous dites, j'ai le Saint-Esprit, j'ai crié, j'ai parlé en langue, j'ai dansé dans l'Esprit. Cela ne veut rien dire du tout pour Dieu, voyez-vous. David fit pratiquement la même chose là-bas. Il chanta de toute sa force et il cria de toute sa force. Tous les autres le firent aussi et pourtant il marchait en direction de la mort. C'est vrai. Cela n'a rien à voir. C'est la parole qui compte, la parole du Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur, oui, monsieur, voyez-vous, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux regardent à la promesse pour aujourd'hui, puis observent et attendent jusqu'à ce qu'ils la voient. Et alors ils disent, ça y est, Dieu le leur révèle. Tout comme Nathanaël, Philippe s'en alla et trouva Nathanaël. Et Nathanaël lui dit, maintenant, attends une minute, je sais que c'est une chose promise, mais laisse-moi la voir. Et lorsqu'il la vit, il dit, c'est cela. La femme dit, « Maintenant je sais, j'ai entendu toutes sortes de théologiens, j'ai fait ceci et cela. Moi-même, j'ai lu la Bible, et je sais que nous, qu'un Messie doit venir et qu'il fera ces choses. C'est pourquoi tu dois être son prophète. » Il répondit, « Je le suis. » Elle dit, « Venez donc voir cet homme, j'ai trouvé. » Tandis jusqu'à ce qu'elle ait vu ce Messie identifié par la parole de Dieu. Puis elle dit, « C'est ce que nous avons attendu pendant 400 ans. Nous n'avons pas eu de prophète ni rien d'autre. Le voici. » Et il dit lui-même que c'est lui. Maintenant, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Mais les prêtres voulaient le tuer, et finalement, ils le firent, voyez-vous. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas tuer son esprit, c'est vrai. Non, ils ne peuvent pas le tuer. Il est venu pour nous amener à lui, c'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Remarquez combien Dieu est grand, combien ses œuvres sont grandes, et qu'il ne peut jamais faillir. Dieu a une manière déterminée d'avance, de faire les choses, et il n'agira jamais autrement. Or, il a annoncé ce qu'il ferait dans les derniers jours. Il a promis de nous envoyer un message, et que celui-ci aurait la même identification qu'avaient Élie, Élisée et Jean-Baptiste. Et que ce message ramènerait le cœur des gens, non à la dénomination, mais au Père apostolique du commencement, à la parole. Combien ces choses ont été confirmées. Il dit que lors de la proclamation du dernier ange, Apocalypse 10, au jour du septième ange, ces mystères qui ont été. Pourquoi les méthodistes, les baptistes, l'Église de Christ, les témoins de Jéhovah, pourquoi tous agissent-ils ainsi? Ces mystères seront révélés dans les derniers jours. Quand les sept anges, le message du septième ange, quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message, voyez-vous, par les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message, ces mystères seront alors révélés. Et ils sont là, sans les connaître, et vous en êtes tous témoins. Et dans ce grand observatoire, afin que le monde soit plongé dans le doute, ils se demandent toujours ce qui est arrivé. Tucson, ces grands observatoires ont pris la photographie de cela, et ils se demandent toujours ce qui est arrivé. Qu'est-ce? Ils mettent encore dans le journal. Quelqu'un sait-il quelque chose à ce sujet? Sur la manière dont cela aurait pu arriver? Il n'y a pas de brouillard là-haut. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'humidité à 48 kilomètres d'altitude. Oh là là, il y aura des signes dans le ciel. Et lorsque ces choses arriveront, et qu'il y aura des tremblements de terre à différents endroits, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. En ces jours-là, dans Luc, le Fils de l'homme se révélera de nouveau, et le monde ressemblera à Sodome et à Gomorre. Oh là là, frère, n'ignorez pas les choses spirituelles, voyez-vous? Car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de la parole. Ce sont elles qui témoignent de la vérité, des choses que Dieu fait en cette heure. Et maintenant, observez, ceux qui ont l'Esprit de Dieu attendent ces choses. Et lorsqu'ils les voient, ils les croient. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Et tout ce que le Père m'a donné, il est la parole, viendra à moi. Ils viendront à moi. J'ai été assez percutant ce matin, voyez-vous. Ils s'attendent au Seigneur. Ils attendent. Et lorsqu'ils font cela, et qu'ils voient la promesse pour aujourd'hui confirmée, cela ranime leur foi en sa parole. Parce qu'il a promis qu'il le ferait, et voici qu'il le fait. Alors il n'y a pas de doute. Dieu parle, sa parole parle premièrement, et ensuite l'Esprit qu'il apporte accomplit ce que la parole a dit qu'il ferait. Oh, nous avons beaucoup d'imitations, nous en aurons encore beaucoup. Des hommes au cœur sincère, qui essayent de faire les choses comme ceci et comme cela. Mais regardez ce qui arrive. Les gens y mettent leurs mains, et ensuite ils meurent, voyez-vous. Notez ceci, aucun projet humain de dénomination ne marchera. Ils font des membres pour leur propre arche dénominationnelle, qu'ils ont construite eux-mêmes. Dieu n'a jamais eu de dénomination. Il n'aura jamais de dénomination. C'est une chose fabriquée par l'homme. Je me demande aujourd'hui si, avec tout notre recrutement, nos grandes croisades et nos réveils, nous n'avons pas rempli l'arche méthodiste, l'arche baptiste, l'arche presbytérienne. Qu'en est-il de l'arche de Christ, la parole? Et si l'épouse doit être la parole, alors si elle doit faire partie de Christ, faire partie de l'époux, elle doit être la parole. Non la parole pour son temps à lui, la parole d'aujourd'hui, qu'il a promise pour ce jour-ci. Il a dit qu'il avait envoyé sa parole pour façonner et former son épouse. J'espère que nous voyons cela. Et maintenant, ne prenez pas vos idées, ou ne prenez pas l'idée de quelqu'un d'autre. Prenez la parole confirmée, ici, la Bible. Elle dit, Dieu a promis et a montré dans sa parole comment il choisirait son épouse en ces derniers jours. Saviez-vous cela? Il l'a promis et a montré comment il le ferait. Et que par son plan originel de choisir Christ, de choisir le temps, de choisir la saison, il ne peut pas ne pas le faire aussi pour son épouse, parce qu'elle est une partie de cette parole. Il ne peut pas la choisir par le moyen d'une dénomination, étant donné qu'il n'a pas choisi Christ par ce moyen. Christ est-il venu dans une dénomination? Est-il venu par une dénomination? Non, elles l'ont rejeté. Eh bien, c'est ce que les dénominations ont fait à ce moment-là. Alors, lorsqu'il choisit une épouse, peut-il venir autrement? Comment a-t-il amené Christ ici? Par la parole des prophètes. Est-ce vrai? Comment va-t-il amener son épouse ici? Par la parole des prophètes. Comment l'a-t-il identifié lorsqu'il vint? Par un homme ayant l'esprit d'Élie sur lui et qui sortait du désert. Comment identifiera-t-il son épouse? Il a promis dans Malachie 4 qu'il ferait la même chose avant de détruire la terre, comme ce fut le cas au temps de Sodome. Souvenez-vous que Sodome brûla. Est-ce bien cela? Eh bien, ce monde doit brûler. Jésus l'a dit. Ce sera le temps où Luc au chapitre 17 et le verset 30 dit « Le jour où ce sera comme Sodome et Gomorre, le Fils de l'homme sera révélé. » Et ensuite, qu'arrivera-t-il? Selon Malachie, il brûlera de nouveau la terre et les justes dans le millénium marcheront sur les cendres des méchants. Est-ce vrai? Voyez-vous, ainsi nous sommes exactement au temps de la fin. Nous sommes à la porte maintenant, attendant qu'il vienne. Remarquez, Dieu a promis dans sa parole qu'il choisirait son épouse de la manière originelle dont il a choisi l'époux. Il l'a prédit par les prophètes et il a envoyé un prophète pour l'identifier. Le prophète qui se trouvait sur les rives du Jourdain a dit, « Voici !» Ils lui dirent, « Tu es le Messie, n'est-ce pas ?» Il répondit, « Non, je ne suis pas le Messie. Tu dois être le Messie. Je ne le suis pas. » Mais il est debout au milieu de vous, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Quand il viendra et se fera connaître. Et aujourd'hui, il se tient parmi nous dans la personne du Saint-Esprit, se manifestant de plus en plus, venant dans son Église et se faisant connaître. Parce que lui, l'époux et l'épouse seront pareils, se faisant connaître. Et un jour, vous verrez que celui que vous avez senti dans votre cœur et dont vous avez vu l'identification, sera personnifié devant vous. Alors vous et lui serez un. Vous êtes unis par la parole, cette parole qui est Dieu et qui était au commencement et retournera au commencement. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Alléluia! Nous y sommes! Alléluia! Je suis si content de le voir se personnifier ici parmi nous et de voir ce qu'il a promis pour sa parole. Non dans les émotions de quelqu'un, chantant, sautant et dansant, mais par sa parole. Amen. Il se fait connaître. Regardez, lorsqu'ils construisirent le temple et qu'ils y amenèrent l'arche, Dieu y entra avec une colonne de feu. Amen. C'était David qui sautait et qui criait. C'étaient les chanteurs et les sacrificateurs qui agissaient comme cela, alors qu'ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand Dieu identifia l'arche à sa place et en position, avant qu'il pût y faire rentrer l'arche, la colonne de feu vint pour montrer le chemin. Au-dessus des ailes des chérubins et derrière le Saint des Saints, sa place de repos, la colonne de feu. Et la gloire de Dieu était là, à tel point qu'ils ne pouvaient pas voir comment faire leur service. Amen. Cela fermera les yeux de chaque théologien lorsqu'il viendra chercher son épouse. Elle sera enlevée au milieu de la nuit, comme ce fut le cas pour eux. Ils ne la verront même pas partir. Oh, que Dieu soit loué. Notez ceci, Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse, et il a dit ce qu'il ferait. Il y aurait une semence, il y aurait une lumière vers le soir. Comment il ferait toutes ces choses exactement? Et de la manière dont il l'avait projeté originellement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et que ce ne serait pas au travers des dénominations, ce ne serait pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains sur cela et en meurent, voyez-vous? La parole, le message du soir, doit produire les résultats du soir. Le message du soir doit semer des semences du soir, pas des semences du matin, des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi, ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir et il révélera les résultats du soir. Le message du soir Le temps de Jésus, le message de midi a fait apparaître des résultats de midi. Le message du commencement a fait apparaître le résultat du commencement. Cela a produit la création. Il a créé son Fils à son image à midi. Vers le soir, il crée son épouse. Voyez-vous, par quoi? Sa parole. Comment a-t-il formé la terre? Comment l'a-t-il créée? Par sa parole. Qui était son Fils? La parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité. Comment prendra-t-il son épouse? Par la parole. Non par un char neuf. Non par l'idée d'un théologien. Mais il identifiera selon sa parole. N'y mettez rien et n'en retranchez rien. Laissez-la telle qu'elle est. Voyez-vous? Vers le soir, il a promis de révéler, d'ouvrir ses sept sceaux et de montrer les choses que les églises dans le passé avaient manquées. Dans Apocalypse 10, Malachie 4, Luc 17, 30, il dit qu'il le ferait. Alors ne le mélangeons pas, gardons-le ainsi. Laissez-moi pour terminer, c'est presque midi moins quart. Laissez-moi terminer en disant ceci. Mes amis, écoutez, au nom du Seigneur Jésus, ces choses sont trop claires pour que vous ne les croyiez pas. Elles sont trop claires pour que vous ne les voyiez pas. Sûrement, vous pouvez voir cela. Sûrement, le monde peut le voir. Mais simplement, ne soyez pas influencés par ces nouveaux trucs clinquants et ces choses qu'ils ont aujourd'hui. Peu m'importe combien ces hommes sont bons et sincères. S'ils ne parlent pas selon la loi et les prophètes, la Bible dit qu'il n'y a pas de vie en eux. Voyez-vous? David pensa qu'il était dans le vrai. Il était sincère. Ses sacrificateurs pensaient qu'ils étaient dans le vrai. Ils étaient sincères. Mais ils omirent simplement de consulter le Seigneur à ce sujet. Et comment auraient-ils pu le faire? Peut-être qu'ils ont dit, nous avons prié sérieusement à ce sujet, mais ce n'était pas la manière de Dieu de le faire. Il a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir premièrement révélé à ses serviteurs les prophètes. Il y avait là parmi eux Nathan, mais ils ne le consultèrent même pas. Maintenant, lisez dans Chronique les quelques chapitres qui suivent. Et vous verrez que lorsque David était dans la maison, il dit, « Est-ce juste ?» Nathan était assis avec lui. « Que je vive dans une maison de cèdre et que l'arche de Dieu soit là-bas sous une tente ?» Et Nathan reçut du Seigneur ce qu'il fallait lui répondre. Comme il avait fait des choses mauvaises, Dieu dit, « Dis à mon serviteur David que je l'aime. J'ai rendu son nom pareil à ceux des grands hommes de la terre. Mais je ne peux pas le laisser faire, voyez-vous, car il m'a fait défaut, voyez-vous. Je ne peux pas le laisser faire. Je susciterai un homme, son fils élèvera la maison perpétuelle de Dieu. » Et c'était David, bien sûr, dont Salomon fut le type, mais ensuite il faillit. Chaque homme doit faillir. Chaque être humain doit faillir. Dieu est le seul qui ne puisse faillir. Il ne peut pas faillir. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Et Dieu est la parole. Et la parole, peu importe que cela paraisse pouvoir arriver d'une autre façon, cela arrivera exactement de la manière annoncée par la parole. Maintenant, souvenez-vous, vous devez suivre la saison, le temps, voyez-vous? Et suivant la saison, le temps de lequel vous êtes, c'est confirmé afin que l'on voit que c'est exactement la vérité. Maintenant, prenez toutes ces conditions à remplir, obligatoirement, toute la parole, tous les types et ces choses, et regardez où vous vous trouvez. Pensez à l'heure dans laquelle nous vivons. Regardez là-bas, où environ un dixième de la terre est sur le point de sombrer. La science dit cela. Ils regardent leur montre. Il y a quelques années, il disait, il ne reste plus maintenant que 3 minutes avant minuit. C'est peut-être 1 minute, c'est peut-être 1/2 minute maintenant. Ils dirent, cela n'arrivera pas dans notre génération. Cela pourrait arriver dans 5 minutes. Et remarquez qu'il dit ensuite, 5 ans. Je n'ai jamais dit cela. C'est lui, l'homme de science, qui l'a dit. Il fuit de la Californie comme des essaims de mouches, voyez-vous? Eh bien, le jour où Lot sortit de Sodome, ce même jour, le feu tomba sur la terre. Un de ces jours, Dieu va prendre notre message et nous allons partir d'ici. Quelque chose va arriver à ce moment-là, assurément, quand l'Église sera partie, son corps, son épouse. Maintenant, je veux vous lire un passage de l'Écriture et je désire que vous lisiez avec moi. Je désire que vous ouvriez vos Bibles dans Deutéronome 4 pour terminer. Je pense qu'il a été dit suffisamment là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Deutéronome 4. Je vais lire ici à deux endroits. pour cette église et pour les bandes, pour ceux qui écoutent les bandes et pour vous qui êtes en ligne à différents endroits du pays. Je veux que vous écoutiez ceci très attentivement. Ne le manquez pas. C'est une chose que je... Deutéronome, chapitre 4. Je vais commencer au verset 1er. Je veux lire le verset 1er et ensuite je lirai les versets 25 et 26. Vous pourrez lire le tout quand vous arriverez chez vous, mais pour gagner du temps, afin que nous puissions sortir à l'heure, parce que je dois revenir ce soir, Dieu voulant. Écoutez parler ce prophète. Il avait été dans la présence de Dieu. Il savait de quoi il parlait. Écoutez, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Cela représente notre millénium. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. N'y ajoutez rien et n'en retranchez rien. Ne dites que ce qu'elle dit, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Vous êtes un peuple séparé de ces dénominations, voyez-vous? Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous n'avez jamais péri avec vos dénominations. Vous êtes maintenant vivant et dans la présence de Dieu. Soyez attentifs, ne manquez pas ceci. Maintenant, au verset 25, lorsqu'ils vont dans le pays, observez ce qui arrive. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, c'est ce qui est arrivé. Si vous faites des images taillées, quelque chose d'autre, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, écoutez, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Voyez-vous, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays ou de l'endroit dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. C'était Moïse qui parlait à Israël, après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu, et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour les conduire et les faire sortir. Avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, « Pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Lui, comme il l'a toujours fait, garde sa promesse envers nous. Chaque promesse qu'il a faite, il l'a gardée. Vous a-t-il dit ce qui arriverait? Et cela est-il arrivé? J'amènerai les cieux et la terre un jour devant vous comme défi. Dieu a-t-il déjà dit quelque chose qui n'est pas accompli et fait exactement pour nous comme il l'avait déclaré? L'a-t-il fait exactement de la manière dont il a dit qu'il le ferait? Exactement. Par conséquent, il continuera à faire ainsi. N'y ajoutez rien, n'en retranchez rien. Croyez-le simplement et marchez humblement devant le Seigneur votre Dieu, car nous approchons du moment où nous allons entrer dans le pays. Alors vous ne reviendrez pas. Vous ne reviendrez plus à ce genre de vie. Vous reviendrez en tant qu'êtres immortels. Vous reviendrez quand le péché aura été supprimé et que Satan aura été lié. Et pendant 1000 ans, vous vivrez sur cette terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. car les débonnaires hériteront la terre. Heureux celui qui obéit à tous ses commandements, afin d'avoir le droit d'entrer dans la ville. Dehors les enchanteurs, les menteurs, les impudiques et les chiens, ils n'y entreront pas. Ces choses sont seulement pour les rachetés et pour ceux qui marchent selon ses commandements. N'acceptez pas de nouvelles choses. Elles volent partout et il en viendra encore plus. Mais n'acceptez pas ces nouvelles choses. Le Seigneur votre Dieu vous a déclaré ce qu'est la vérité. Le Seigneur votre Dieu a confirmé ce qu'est la vérité par sa parole et par son esprit. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et l'esprit, Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Et il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il vous a montré les semences du soir. Il vous a révélé cela dans la parole. Il vous l'a prouvé par son esprit. Ne commencez jamais une organisation. N'en faites pas l'essai. N'essayez pas de construire sur quelque chose d'autre, mais restez humble devant l'Éternel votre Dieu. Car on dirait que les portes de la terre promise vont bientôt s'ouvrir. Alors entrons avec les chants véritables et l'allégresse quand l'épouse et l'époux prendront place sur le trône. Vivez dans l'humilité, vivez dans l'amour, aimez-vous les uns les autres, n'ayez jamais rien entre vous. Si vous voyez quelque chose venir dans votre cœur contre quelqu'un, faites-le immédiatement sortir. Ne laissez pas, Satan fera de son mieux pour venir parmi vous, voyez-vous? Ne laissez pas cela arriver. Il se peut qu'un homme à la langue habile vienne et essaye de vous éloigner de cela. Pensez-vous qu'ils purent dissuader Moïse de se tenir dans la présence de Dieu alors qu'il s'y était trouvé et l'avait vu? Non, monsieur. Non, nous n'en retranchons ni et n'y ajoutons rien. Gardez-le simplement de la manière que le Seigneur l'a dit. Nous ne voulons pas de dénomination. Nous ne voulons pas d'organisation. Nous ne voulons pas de méchanceté. Nous ne voulons pas de dispute. Nous voulons Dieu et il est la parole. Maintenant, inclinons nos têtes. Dieu, je regarde autour de moi avec des yeux spirituels. J'essaie de voir ce qui est en train d'arriver. Je vois ta parole et la manière dont elle a été confirmée et prouvée. Commençant il y a 33 ans avec ce que tu as dit ici sur le fleuve, nous voici maintenant 33 ans plus tard et tu es en train de faire exactement ce que tu as dit et tu as accompli ce que tu as dit. Seigneur, loin de nous l'idée d'essayer de le minimiser ou de l'exagérer. Gardons-le tel que tu l'as donné. Marchons dans l'humilité et continuons à te suivre. Voici ceux, Seigneur, que tu as donnés comme fruits au ministère, à côté de tous ceux qui dorment à travers le pays et autour du monde. Les cimetières ici renferment beaucoup de ces saints bénis qui attendent. Mais comme il a été dit, nous les vivants qui demeurons, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. La trompette sonnera et les morts ressusciteront premièrement. Puis nous serons ravis avec eux. Quand la gloire de Dieu sera sur la terre, elle cachera l'Église à la vue du monde. Celui-ci ne la verra même pas quand elle partira. Père Céleste, garde-les dans ta main, ils sont à toi. Je te prie, ô Dieu, de nous laisser toujours marcher devant toi dans l'humilité. Nous ne savons pas pour combien de temps encore. Nous ne désirons pas le savoir. Ce n'est pas notre affaire, c'est ton affaire. Il ne dépend pas de notre volonté de savoir quand tu viendras. Notre volonté, Seigneur, c'est de rester humble jusqu'à ta venue et de marcher avec toi. Notre désir est que tu te fasses connaître une fois de temps en temps, Père, parmi nous, afin que nous puissions voir que nous marchons toujours avec toi. Pardonne-nous nos péchés passés. Guide-nous et protège-nous à l'avenir de tous les pièges du diable. Conduis-nous et guide-nous, ô Dieu notre Père. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à être tes enfants. Nous sommes une classe de gens pauvres. Nous sommes rejetés par les sociétés de ce monde, par les dénominations des églises. Nous voyons la fin et nous te remercions pour la vue spirituelle de ta parole qui nous permet de voir le temps de la fin. car toutes ces choses doivent aboutir à cette grande lapidation qui viendra du ciel. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas ici ce jour-là, mais que nous soyons partis en ta présence, nous étant envolés jusqu'en ton sein. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Nous te prions de nous donner ce soir un si grand service qu'il n'y ait plus une seule personne faible au milieu de nous à cause de ta présence, Seigneur. Puissent nos cœurs être continuellement fixés sur toi. Nous savons, Seigneur, que l'argent, les biens et les choses du monde ne signifient rien, car elles ne sont que temporelles. Toutes doivent disparaître. Notre travail, notre place, nos amis, tout doit disparaître. Peu importe que nous soyons riches, pauvres, populaires ou impopulaires, tout cela doit disparaître. Mais il n'y a qu'une chose ici sur laquelle notre être doit être centré, c'est sur Jésus-Christ. Ainsi, ô Dieu, puissions-nous mettre de côté tout ce qui est secondaire et nous attacher à lui, et il est la parole. Accorde-le, Seigneur, la parole confirmée de l'heure. Confirmée du temps de Moïse était Jésus. La parole confirmée du temps d'Ésaïe, d'Élie, de Jean et de tous était Jésus. Et la parole confirmée aujourd'hui est Jésus, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Aide-nous, Seigneur, à croire cela, à voir cela et à marcher dans cela. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alors que nos têtes sont inclinées, je me demande s'il en est ici qui n'ont jamais véritablement pris cette grande et entièrement suffisante. Vous croyez cela, mais croire n'est pas suffisant. Je crois que mon épouse était une gentille fille. Je connaissais son père et sa mère. Je la connaissais depuis des années. Elle avait une vie droite. Je croyais qu'elle était bien, mais cela n'a pas fait qu'elle fût à moi. Elle n'est pas devenue mienne avant que je l'accepte et qu'elle m'accepte. Maintenant, Jésus veut vous accepter. Ne voulez-vous pas l'accepter et devenir une partie de sa parole? Si vous n'avez pas fait cela, alors que toutes les têtes et les cœurs sont inclinés, je l'espère. Il n'y a pas de place ici pour un appel à l'autel. De toute façon, je n'y suis pas très favorable. Je crois que Dieu vous visite là où vous êtes. Voudriez-vous lever la main et dire, « Frère Branham, souvenez-vous de moi dans votre prière. Je veux faire cela. » Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, il y a des mains partout. Je veux être comme cela. Que Dieu vous bénisse, frère. Et que Dieu vous bénisse, frère. Et vous tous qui êtes là, je veux être cela. Que Dieu vous bénisse. Je désire vraiment être cela. Je le vois. Maintenant, regardez, mes amis. Il y a peut-être un petit quelque chose. Si vous n'êtes pas cela, c'est qu'il y a alors quelque chose d'autre sur lequel vous avez centré votre vie. Vous êtes si près de cela. Vous le regardez. Vous le voyez. Vous l'avez vu grandir pendant des années. Vous le voyez maintenant arriver à maturité. Si cela veut tout dire pour nous et que rien d'autre ne subsiste, pourquoi ne détourneriez-vous pas la tête de la chose à laquelle vous avez regardé pour vous concentrer désormais sur lui, lui qui est le centre de toute vie et la vie future, c'est lui. Ne voulez-vous pas le faire pendant que nous prions ensemble? Ô Dieu bien-aimé, des hommes, des femmes, des garçons, des filles, même des prédicateurs ont levé leurs mains. Ils voulaient dire par là qu'ils désiraient être axés autour du Seigneur Jésus. Et pourtant, on dirait qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a quelque chose qui les tire d'un côté ou d'un autre. C'est peut-être une dénomination, c'est peut-être une personne, c'est peut-être un péché, c'est peut-être quelque chose qu'ils cachent dans leur cœur. Je ne sais pas, Seigneur, toi tu le sais. Quoi que ce soit, puisse-t-il maintenant, Seigneur, pendant que tu en appelles d'autres, tu les as appelés, ils sont à toi. Et pendant que tu les appelles, puissent-ils se libérer du péché qui les entoure. Comme la Bible dit, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur quoi? Notre travail? Une dénomination, notre affiliation, le conseil, sur Christ, le chef et le consommateur de la foi que nous avons en lui. Fais cela pour nous aujourd'hui, Père, car nous te le demandons en son nom et pour sa gloire. Maintenant, ils sont à toi, Seigneur. Fais avec eux comme tu le désires. Fais avec nous comme tu le désires. Nous sommes à toi, au nom de Jésus. Amen.
just my salvation on Calvary.
Have you forgotten about?
Avez-vous oublié votre dîner? Avez-vous oublié si les enfants sont bien dans la voiture ou pas? Avez-vous oublié tout ce qui est du passé et réalisé quelle est la chose que vous ressentez maintenant? Cela se matérialise devant vous jour après jour. Que cela soit le centre d'eux, que les autres choses disparaissent, elles périront de toute façon. Oh, continuez simplement à le suivre. De même qu'Élisée suivit Élie, suivons-le, car un jour, nous serons aussi enlevés. Nous avons vu le char de feu qu'il a fait sortir de la tombe. Nous le sentons maintenant parmi nous. Un jour, il décrochera les chevaux des buissons. Nous monterons. Ne voulez-vous pas l'aimer? Oh, ne pouvez-vous pas, en fermant les yeux, presque le voir, suspendu là-bas? Qui d'autre pourrais-je aimer? Chaque fois que je retourne à la maison, quelqu'un n'est plus là. Je suis absent pendant quelques mois, et lorsque je reviens, quelqu'un n'est plus là. Je deviens triste chaque fois que je reviens. L'autre jour, un garçon avec lequel je suis allé à l'école marchait dans la rue et me dit « Salut, Billy ». Je le regardais. Autrefois, c'était un beau garçon, aux cheveux très noirs et brillants, coiffés en arrière. Maintenant, ils sont aussi blancs que la neige. Il se tenait si droit, mais maintenant, son ventre sort comme ceci. Je lui dis « Salut, Jim ». Je le regardais, je sentis mon cœur et je pensais « Oh Dieu, ce garçon et moi, cet homme et moi, avons le même âge ». Alors je sus que mes jours étaient comptés. Je sais que cela ne peut plus durer longtemps. Je regarde autour de moi et je pense « Que puis-je faire, Seigneur ? Aide-moi, je ne veux pas marcher en avant de toi. Je veux rester juste derrière toi. Tu me montres le chemin. » Je regarde et je pense, 56 ans, oh là là, cela ne peut plus être long. Et je baisse les yeux et je vois mon cher ami, Bill Dow, qui est là avec ses 72 ou 73 ans. Je regarde autour de moi, je vois ses enfants qui pensent, j'attendrai jusqu'à ce que je sois aussi vieux que frère Branham pour y penser. Mon petit chou, tu ne verras peut-être jamais cela. Je doute beaucoup que tu le vois. Voyez-vous, pensez que si frère Bill Dow passe la journée, il survivra à des centaines de jeunes de 15 à 16 ans. Il en meurt à chaque heure. Alors, quelle différence votre âge fait-il? Que faites-vous concernant l'heure dans laquelle vous vivez? Que faites-vous pour Jésus en ce moment? Voyez-vous? Oh, je désire le voir. Je désire voir l'heure où je verrai tous ces vieux corps transformés et changés en un instant, en un clin d'œil. Si ce n'est pas ainsi, alors nous sommes les gens les plus insensés. Mangez, buvez et réjouissez-vous, car demain vous mourrez. Voyez-vous? Vous êtes juste comme un animal. Vous mourrez, vous allez dans la terre et c'est tout. Mais il y a une âme immortelle qui vit en vous, frère. Nous avons déjà entendu le ciel nous parler. Nous avons déjà vu cela confirmé. Nous savons qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, vous, les membres du corps de Christ, pendant que nous le chantons de nouveau, je désire que vous vous serriez la main les uns aux autres, tout en restant assis.
Just greet your brother, sister.
Richard.
Just my salvation on Calvary.
L'aimez-vous, dites Amen. Aimez-vous sa parole, dites Amen. Aimez-vous sa cause, dites Amen. Aimez-vous son corps, dites Amen. Alors, vous vous aimez les uns les autres. Amen. C'est vrai. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, lorsque vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, j'ai posé mes mains sur ces mouchoirs, si vous devez les prendre avant ce soir. Je vais demander à Richard Blair, dont Dieu a exaucé la prière, lorsque l'autre jour, lui et le frère ont prié pour que la vie revienne dans ce petit garçon qui est assis parmi nous aujourd'hui, cela à cause de leur foi en Dieu. Et maintenant, je vais lui demander de terminer dans quelques instants par la prière, afin que nous puissions revenir ce soir. C'est environ 12:30 d'après cette horloge. Je désire que vous reveniez ce soir, si vous le pouvez, et si vous êtes dans les parages. Si vous devez rentrer chez vous, que Dieu vous aide et vous protège sur la route. Si vous pouvez rester et que vous le vouliez, vous êtes les bienvenus. Maintenant que Dieu soit avec vous.
Let's raise your hands to be at peace.
C'est ainsi qu'il faut quitter la maison de Dieu, dans un esprit de prière, humblement, en croyant que nous nous rencontrerons de nouveau ce soir. Si ce n'est pas le cas, que Dieu soit avec vous. Inclinons maintenant nos têtes, frère Blair.